Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans le Climat Parent Live. Et ce soir, on a notre premier invité, en dehors de Loïc et Jean-Loup, hein, qui sont vraiment des collègues de travail. On est avec Guillaume. Est-ce que ça va, Guillaume?
Ça va, réveilleur, nickel. Et toi?
Très bien, très bien. Et faut assumer son pseudo, apparemment. C'est quoi ton pseudo, Guillaume?
Mon pseudo, c'est Bûche, Bûche.
Donc.
Alors, je pourrais expliquer d'où ça vient.
Bah vas-y si tu veux, vas-y.
Ouais, ok, bah écoute, c'est pas compliqué. C'est un surnom que j'ai depuis le collège, qui est un dérivé d'un autre surnom. Et donc, il m'a suivi toute ma scolarité, donc du collège jusqu'aux études supérieures, et un peu plus tard même. Et du coup, bah, je l'ai conservé parce que ça fait partie de mon identité, j'y tiens un peu. Et après, le 56, c'est le numéro d'une promotion d'une école.
Quelle école?
Voilà. C'était classe préparatoire,
Ok.
en grande école.
Ok. Et est-ce que vous allez bien dans le chat? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que la technique est ok? Vous nous dites hein, s'il y a des problèmes de son ou d'image. Et donc, ce soir, on va parler de nucléaire. Normalement, c'est assez clair dans le titre et dans la petite notification que vous avez eue. Pour ceux qui suivent sur Twitter, vous le savez déjà. N'hésitez pas à suivre Guillaume. Et voilà. Donc, Guillaume, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier?
Eh ben, je travaille dans la filière nucléaire. Donc, je suis ingénieur. Aujourd'hui, on peut dire que je suis ingénieur dans la sûreté nucléaire. Et ma spécialité, c'est la conduite d'installation nucléaire en situation accidentelle. Donc, l'idée, c'est que bah, je travaille à l'élaboration, à la justification de stratégies qu'on prévoit de mettre en place ou qu'on a mis en place sur les installations. Et qu'on sera peut-être amené à mettre en œuvre bah, lors d'un problème, genre un incident ou un accident nucléaire. Donc ma partie, c'est plutôt les réacteurs électrogènes, donc typiquement les réacteurs qui nous occupent en France, qui produisent l'électricité, entre autres. Et bah, mon quotidien, c'est un travail assez tertiaire, hein, c'est-à-dire que j'ai un bureau, j'ai un ordinateur, j'ai des équipes, et bah, je travaille à réaliser des études, répondre des questions à des questions. Et en particulier, bah, je réponds aux questions de l'IRSN, de l'ASN, des projets sur tout ce qui peut intéresser donc cette conduite d'installation en situation accidentelle.
Ok, donc on va revenir un peu sur ton travail plus loin, mais tu me disais aussi que tu fais un peu des formations, ce genre de choses, tu veux peut-être en toucher deux mots aussi?
Ouais, alors j'ai la chance d'intervenir un peu dans le monde étudiant à deux titres. En fait, bah, je donne des cours dans des écoles d'ingénieurs bah, dans le domaine du nucléaire. Donc j'ai un cours sur la sûreté bah, pour les réacteurs nucléaires. J'aime bien ça parce que bah, ça permet de changer un peu d'environnement et puis de se mettre un peu au contact de questions qui sont un peu fraîches. Ça permet de prendre des bons coups de vieux aussi, parce qu'on se rend compte que finalement le temps passe et que les gens n'ont pas forcément vécu la même chose que toi, accessoirement. Et à côté de ça, je suis partie de plusieurs assos en fait qui font de l'aide à l'orientation dans le parcours scolaire. Et du coup, j'essaye bah, de réserver un peu de temps pour répondre aux questions bah, de collégiens, lycéens ou d'étudiants sur ce qu'ils peuvent faire après dans le parcours scolaire, dans la vie, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans telle ou telle filière, etc. Donc, j'aime bien le monde étudiant et j'essaye d'y garder un pied parce que je trouve ça important.
Ok, ouais, moi j'ai les mêmes coups de vieux. Quand tu commences à enseigner, t'as l'impression qu'ils sont ton âge en face, et puis tu les trouves de plus en plus jeunes, et puis il y a des refs qui passent plus. Ils n'ont pas vu les mêmes films, ils n'ont pas vu les mêmes pubs,
C'est ça.
ils n'ont pas écouté les mêmes musiques, ça devient compliqué de faire des blagues.
Ouais, non, mais j'ai eu le coup il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. En fait, bah, du coup, moi, je parle beaucoup de sûreté et d'accidents nucléaires. Et donc, une référence aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à Fukushima. Fukushima, c'était en 2011. Et lors d'un dernier cours, je parlais de Fukushima, Fukushima, Fukushima. Et en fait, je sentais que ça percutait pas dans la salle. Enfin, tu sais, tu peux sentir la température, ça passait pas. Et à un moment donné, j'aurais quand même posé la question, mais du coup, vous savez ce qui s'est passé à la centrale de Fukushima Daiichi? Et ils m'ont tous répondu, non. Et en fait, j'ai fait un rapide calcul, et ils avaient entre 8 et 12, 10 ans, en fait, à l'époque. Et effectivement, quand j'avais 8 ans, bah, je passais pas mon temps sur les chaînes d'infos, etc., etc. Et donc, du coup, c'est là que j'ai pris un tout petit coup de vieux. Enfin, et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je remette à jour mon cours et les prérequis. Voilà, c'est comme ça.
Donc à 8 ans, tu t'imaginais pas faire ton métier d'aujourd'hui. Et ça t'est arrivé quand ce métier du coup? Quand est-ce que c'était une vocation?
C'était une occasion. Si tu veux, au niveau du parcours qui est assez conventionnel, moi j'ai fait les classes prépa aux grandes écoles. Ensuite, j'ai intégré une école d'ingénieur. J'ai eu un diplôme d'ingénieur généraliste, donc une teinte en énergie, mais c'était pas une école spécialisée. Et en fait, à cette époque-là, dans cette école, j'ai eu l'occasion de bosser sur plusieurs sujets. Et la réflexion que j'ai eue à l'époque, c'est bon, qu'est-ce que je veux faire comme métier? L'idée, c'est de trouver quelque chose qui me plaise, qui paye, on va pas se cacher. Et donc, un des domaines qui. Enfin, j'avais identifié deux domaines où je savais qu'il y aurait toujours de l'emploi, c'était en gros tout ce qui fait la bouffe, l'agroalimentaire, l'agriculture, des choses comme ça, et l'énergie. Je me suis dit, en tablant sur ces deux domaines-là, je suis quasiment sûr d'avoir un emploi, quel que soit le moment où je sors d'école. Et je me suis plus orienté vers l'énergie et du coup ça m'a permis en fait d'utiliser les stages qu'on a pendant ces années pour tester, pour aller voir les industriels et pour voir un peu ce qui se faisait. Et à l'époque j'ai eu la chance de bosser sur un projet solaire parce que c'était ma première stratégie, mon premier amour énergétique, c'était les panneaux photovoltaïques. Et du coup j'ai réussi à faire un projet à l'époque avec Photowatt, donc une entreprise qui en France et qui produit encore aujourd'hui des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques. Et en fait, je me rends compte a posteriori la chance que j'ai eue parce qu'ils m'ont filé plein de. Enfin, on était deux, on avait plein de cellules photovoltaïques, de pratiquement ce qu'ils faisaient de mieux à l'époque. Et on a fait plein de tests, on a fait plein de configurations de panneaux, on a testé au froid, au chaud, on a testé tout ce qu'on pouvait, tellement on avait de cellules photovoltaïques. C'était hyper intéressant et ça a été extrêmement sympa de bosser avec eux. Ils étaient extrêmement volontaires et nous, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidés dans notre projet et aussi pour se faire une opinion sur cette technique. Et du coup, j'ai beaucoup aimé bosser là-dessus. Par contre, j'avais été un tout petit peu déçu à l'époque, ça remonte à quelques années maintenant, mais j'ai eu peur en fait, j'ai pas pensé que. Disons que j'ai eu des doutes sur notre capacité à monter en échelle sur cette techno. À l'époque, j'avais du mal à imaginer des champs très importants à l'échelle du continent ou plus de cette techno.
Ok.
Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai un peu de temps devant moi, je vais essayer de faire autre chose. Et le deuxième truc que j'ai essayé pendant mes années d'études, c'est l'hydrogène. Donc là, l'hydrogène, on a bossé sur une pile à combustible. Et à l'époque, on a fait un partenariat avec le CEA. Et c'était hyper sympa parce que pour le coup, je faisais partie d'un projet qui était plus grand, on était une dizaine. Et on est entré en fait en compétition avec les ingénieurs du CEA. Et le but du jeu, c'était qu'on devait concevoir une pile à combustible. Et à la fin, il fallait que celui qui avait le meilleur rendement, en gros, gagner un peu le truc, quoi. Donc on était en bisbille avec les ingénieurs du CEA et c'était hyper sympa. Hyper sympa parce que du coup, on a eu des échanges. Très souvent, on a eu accès à tout ce qu'ils savaient en fait de cette techno à l'époque. Le seul truc, c'est que on avait plus de temps à y consacrer qu'eux, parce que bon, eux, ils faisaient ça un peu pas sur leur temps libre, mais presque. Et à la fin, on a réussi à faire une compétition et en fait, on avait eu des meilleurs rendements. Alors pas parce que la technologie était meilleure, c'était pas le cas. C'est juste qu'on avait moins de déperditions, moins de fuites en fait sur l'hydrogène et parce qu'on avait vachement travaillé sur l'étanchéité. Et donc c'était hyper sympa. Donc gros 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 souvenir sur l'hydrogène qui était très sympa. Mais par contre, moi un truc qui m'a fait un peu m'interroger sur l'hydrogène, c'était toutes les notions de production d'hydrogène, de stockage d'hydrogène, parce que pour le coup, en termes de sécurité, c'est pas rien, et puis de transport, quoi. Et là, c'est pareil, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Enfin, à l'époque, je m'étais posé la question de comment est-ce qu'on va faire pour développer ça à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'un continent. Enfin,
Tu parles de quelle
j'avais du
année là,
mal à
à peu près?
imaginer, quoi. C'était les années 2000, 2000, 2010 à peu près.
Ok. Et photovoltaïque, c'était pareil dans ces eaux-là?
Ouais, c'était à peu près dans ces eaux-là. Donc, les technos existaient, mais j'avais vraiment du mal à m'imaginer à partir sur des échelles continentales pour alimenter ouais, toute une infrastructure, toute une population. Bref, du coup, je me suis retrouvé un peu le bec dans l'eau et j'ai regardé qu'est-ce qui était en place, qu'est-ce qui fonctionnait déjà à une échelle semblable. Et puis, en France, on avait le nucléaire qui était quand même déjà bien présent. Et du coup, je me suis intéressé à ça. Et c'était assez passionnant. Nucléaire, sans faire de prosélytisme aucun, mais c'est d'un point de vue technique et scientifique, c'est quand même assez complet. Il y a quasiment tous les domaines dedans. Et c'est assez fascinant comme outil. Et donc, d'un point de vue technique et d'un point de vue scientifique, il y a moyen de s'y épanouir, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai continué. Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur d'école généraliste, et après, j'ai fait un deuxième diplôme de spécialisation dans l'énergie nucléaire à l'INSTN. Alors, un truc qui est intéressant et que je dis souvent à mes étudiants, c'est que les diplômes de spécialisation, il faut bien se renseigner sur les écoles d'ingénieurs, parce que souvent, en fait, elles ont des partenariats avec d'autres écoles, dont des écoles de spécialisation. Et souvent, l'information, elle n'est pas trop diffusée. Il faut bien se renseigner à les personnes qui s'occupent de l'orientation pour voir si l'école des étudiants ont un partenariat avec d'autres écoles de spécialisation, parce qu'en fait, on peut faire la dernière année du parcours ingénieur directement dans l'école de spécialisation. D'accord? Un parcours ingénieur, normalement, c'est 5 ans. Donc, moi, j'ai fait 5 ans plus 1, donc 6 ans. Et en fait, il est possible de remplacer la dernière année de ton école, on va dire, de base, par une année dans l'autre école, ce qui te fait gagner un an avec deux diplômes. Ça peut être intéressant, mais c'est pas trop connu. Donc voilà, du coup, je profite pour répondre à cette info.
Alors, il y a pas mal de réactions. Il y avait Guillaume FR qui demandait, est-ce que c'est vrai qu'Air Liquide produit de l'hydrogène à partir de méthane? Donc oui, ça c'est vrai. Et presque trois quarts de la production d'hydrogène dans le monde, c'est méthane. Et le quart restant, c'est charbon. Il y a deux vidéos sur la chaîne sur l'hydrogène pour les questions là-dessus, parce que c'est un peu en dehors du champ de la vidéo. Il y avait quelqu'un qui demandait, le cours où tu disais qu'ils n'avaient pas de référence sur Fukushima, c'est un cours de sûreté nucléaire?
Oui.
Et c'est sur des étudiants de nucléaire du coup?
Oui.
Ah ouais, donc c'est étonnant quelque part qu'ils aient jamais entendu parler de Fukushima, ou
Bah,
justement c'est
ils
à
en avaient
toi de
pas.
l'introduire, quoi.
Ouais, alors bah, il faut. Enfin, c'est aussi notre rôle, hein,
Ouais.
exactement. Mais c'est pas qu'ils en avaient jamais entendu parler. C'est que moi, ma question, c'était, est-ce que vous savez précisément qu'est-ce qui s'est passé dans la chronologie de l'accident?
Ok.
C'est pas tout à fait pareil. Savoir qu'il y a trois réacteurs qui ont produit à Fukushima et que c'est un accident de niveau 7 et que c'est dramatique, ça, je pense que n'importe qui le sait, au même titre que Tchernobyl. Mais par contre, non, moi, ce qui m'intéressait, c'était, comme on était dans une filière nucléaire, c'était la chronologie un peu plus fine de ce qui s'était passé. Et ça, bah, c'est pas si simple.
À quelle température boire un Beaujolais? Personnellement, je n'ai pas cette culture. Et si
Non,
tu l'as,
moi je
je ne
suis
sais pas.
lorrain d'origine, donc non,
Ah.
désolé.
Et Lord Gibus demandait le fameux bouton AZK. J'ai un peu raté la question. Je pense que c'est une référence que j'ai pas, mais tu l'as peut-être.
Ouais, le bouton AZK, il a été rendu célèbre par la série Tchernobyl, en fait, de HBO. C'est le bouton d'arrêt, enfin c'est AZ5, AZK, ça dépend des traductions. C'est le bouton d'arrêt d'urgence, en fait, du RBMK russe. Et c'est celui-là qui a été mis en exergue par la série comme faisant quasiment office de détonateur dans l'accident de Tchernobyl. Puisque quand ils ont appuyé dessus, ça a donc déclenché un arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence a inséré les grappes d'arrêt donc dans le réacteur. Seulement sur un RBMK, le bout des grappes est en graphite. Et en fait, au lieu de couper court à la réactivité comme tout de suite, bah, ça, il y a eu d'abord un sursaut de réactivité et ça a pas aidé. Dans le langage courant, on dit souvent que ça a été quasiment le bouton du détonateur, le fameux bouton AZK.
Et ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Guillaume sur son parcours, sur à quoi ressemble son métier. Je pense que je vais te reposer des questions un peu là-dessus.
Ouais.
Il y a Guillaume FR qui dit. Ouais, pour les pourcentages. Alors, pour l'hydrogène, Guillaume, je t'encourage vraiment. Guillaume FR, pardon, la personne dans le chat. Je t'encourage vraiment à aller voir les vidéos dessus, sur ce qui est la production et tout. J'ai pas tout en tête, mais à l'époque où j'avais fait la vidéo, et c'est pas si vieux, il y avait plus de coproduction d'hydrogène par électrolyse, parce que par exemple. C'est comme ça qu'on fait HCl, je crois. C'est en électrolysant quelque chose. Qu'on récupère le chlore, je sais pas. En tout cas, il y avait plus de production d'hydrogène par coproduction de procédés électrolyse que vraiment par électrolyse. Donc à l'époque, c'était quand même un très petit pourcentage de la production mondiale. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais. Et donc, toi, tu travailles maintenant sur la sûreté et la conduite accidentelle. Et du coup, voilà, en quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
Bien sûr. Bon, alors du moment où le réacteur, hein, il a un mode de fonctionnement normal, d'accord? Et le but du jeu, c'est que quand il fonctionne normalement, eh ben, il n'y ait pas de problème. Ou que du moins, les inconvénients qui sont associés au fonctionnement normal, ben, en fait, soient circonscrits dans ce qui est acceptable. Donc en fait, c'est là qu'on va retrouver les arrêtés types de rejet, les rejets chimiques, les rejets thermiques, le bruit, des choses comme ça. Tout ça, c'est requis par l'arrêté INB en France, fonctionnement normal. C'est en gros le domaine numéro 1. Et
INB.
après, on a INB, installation nucléaire de base. typiquement, dans notre cas aujourd'hui, ce soir, ça sera plutôt un réacteur nucléaire électrogène, puisque c'est plutôt mon domaine de compétence. Ensuite, on va avoir d'autres domaines qui vont nous emmener tout doucement vers ce qu'on appelle un accident nucléaire. Donc, le domaine numéro 2, c'est le domaine incidentel, où en fait, on a des capteurs qui tombent en panne, où on a des petites alarmes, on a du matériel qui commence à défaillir, mais qui n'impacte pas la démonstration de sûreté. Donc, c'est du quotidien, hein, c'est le voyant qui s'allume sur votre tableau de bord, mais qui n'est pas rouge. Ça fait partie de l'exploitation normale, mais encore, il faut pas que ça dégénère. Ensuite, on a le domaine numéro 3. C'est là, par contre, c'est le domaine accidentel. Là, on a des choses qui se sont passées et qui mettent en danger, qui rendent caduque en fait la démonstration de sûreté, dans le sens où il y a un danger de répandre des matières radioactives, ou du moins de nuire à l'environnement de quelconque manière que ce soit. Ça, c'est le domaine numéro 3. Et moi, j'interviens au domaine numéro 4, celui d'après. C'est le domaine des accidents graves. Donc, les accidents graves, c'est, en France, la définition, c'est un domaine avec fusion partielle ou totale du cœur. Donc, en fait, si tu veux, moi, mon hypothèse de base, quand je commence à travailler, c'est que le cœur, il est déjà en train de fondre. Donc, on est déjà dans une situation type Fukushima ou type... Tchernobyl, c'est un peu rapide, mais TMI, par exemple. TMI, Three Mile Island. Donc ça, c'est mon hypothèse de base. Et après, le but, entre guillemets, du travail, c'est de trouver comment est-ce que, en partant de cette situation-là, on n'est pas une dégradation qui emmène à une pollution dans l'environnement. C'est ça la définition de la sûreté, partie de la définition de la sûreté. Alors, je vais dire des choses, je vais certainement simplifier, je vais me faire reprendre après par... la moitié de Twitter et les collègues, mais c'est pas bien grave. L'idée, donc, après, c'est que dans cette situation de fusion du cœur, en fait, il y ait le moins de rejet possible dans l'environnement. C'est ça le but du travail. Pour cela, en fait, on va regarder sur quoi on peut compter. Donc, en fait, il y a plusieurs parties pour répondre à un accident. C'est la première chose, c'est la conception. Il faut que la conception soit faite. Donc, on intervient, moi et mon équipe, dès les phases de conception de nouveaux projets. Aujourd'hui, il y a pas mal de projets. Si on regarde la France, aujourd'hui, on a des projets type EPR2, on a des projets type New World, des choses comme ça, qui sont en fait en train de finaliser leur design. Et donc, en fait, on va regarder ce qu'ils proposent comme design et on va les confronter déjà à la réglementation. Et puis aussi, on va les tester via des codes de calcul. On va faire des accidents sur codes de calcul et on va regarder ce que ça donne en termes de rejet dans l'environnement. Et on va voir si c'est bon ou pas. Alors, si c'est bon, ça veut dire qu'on est sous un seuil qui a été déterminé soit par la réglementation, soit en instruction avec l'IRSN et l'ASN. Et si c'est pas bon, faut revoir la copie, simplement. Donc, la conception, c'est la première phase. Et après, il y a l'exploitation. C'est-à-dire qu'une fois que l'installation est dans une situation d'accident, qu'est-ce qu'on peut faire pour, sur place, faire en sorte de ne pas aggraver la situation ou rectifier la situation. Donc là, tu as deux types de préconisations. Tu as ce que vont faire les hommes, c'est-à-dire les opérateurs sur site. On va les aider, on va leur créer des procédures, on va imaginer toutes les situations, ou le plus de situations possibles, et on va essayer de les guider dans les actions qu'ils peuvent faire pour rétablir la situation ou la mitiguer, d'accord, limiter les conséquences. Et après, tu as les matériels qui restent, puisque si l'installation est dans une situation d'accident grave, en fait, potentiellement, c'est qu'elle a quand même connu un événement... relativement majeur qui l'a mise à mal sur un certain nombre de défenses. Et donc, en fait, on va regarder ce qui reste et on va, pareil, préconiser l'usage de tel ou tel matériel pour éviter d'aggraver la situation. Voilà. Okay. Ça, c'est le concept.
Ok. Donc, fusion de cœur, c'est en gros quand on a une partie du combustible nucléaire qui fond.
C'est ça. Moi, quand j'arrive le matin, c'est mon hypothèse de départ. Donc, chacun son truc.
Valden88 demande. Alors fais juste gaffe quand tu te frottes les mains ou quand tu frottes devant toi, on l'entend pas mal au micro.
Pardon.
C'est pas grave. Valden88 demande, avec Fukushima, j'ai entendu tout et son contraire sur la gravité ou non de l'incident. Du coup, quel est l'avis de notre invité?
Alors, c'est pas très compliqué. Fukushima, ça a été classé niveau 7 sur l'échelle INES par la IEA. Donc l'échelle INES, c'est une échelle qui a été inventée justement post-Tchernobyl par l'IEA dans le but de...
L'IEA, juste, peut-être, explique.
L'Agence internationale de l'énergie nucléaire. Donc, c'est une agence onusienne qui traite de l'énergie nucléaire et dont une des missions, c'est de le promouvoir vis-à-vis du développement énergétique. Et donc, ils ont un certain nombre d'experts et ils se font en fait référence aussi dans un point de vue sûreté. C'est eux qui émettent des recommandations en fait pour tous les exploitants au monde. Ils font aussi des inspections, des peer reviews, des OSART sur site. Ils vont regarder en fait ce que les exploitants font et ils donnent des avis sur le type d'exploitation. Donc, c'est une grosse institution qui fait référence dans le monde entier sous l'égide de l'ONU. Donc, c'est plutôt quand ils font une recommandation, tout le monde la regarde, quoi. Donc l'AEA, ils ont créé donc l'échelle INES. L'échelle INES, c'est une échelle qui compte 8 niveaux de 0 à 7. Et 0, c'est des événements qui sont pas normaux, mais qui n'ont pas de conséquences. Par contre, 7, c'est un accident avec des conséquences majeures.
Donc c'est pas un incident déjà, c'est un accident grave, quoi.
Non, c'est un accident. Accident, c'est à partir du niveau 4, si ma mémoire est bonne, on peut vérifier. Non, c'est un accident grave. Alors, c'est ce qui s'est passé à Fukushima, c'est un accident très très grave. Je ne vois pas comment le minimiser autrement. Enfin, il y a 3 cœurs qui ont fondu. Et en plus, quand on regarde le déroulé de l'accident, il y avait des scénarios bien plus graves sur la table en termes de conséquences radiologiques, à la fois pour l'environnement et aussi pour les populations locales. Donc non, Fukushima, c'est un vrai accident. C'est pas le même style que Tchernobyl pour plein de raisons différentes, on pourra en parler. Mais non, c'est un accident sérieux, très très grave. Pas dire que c'est un incident, c'est pas vrai.
Et Guillaume Fer demande du coup, quand il y a une imprimante qui prend feu à Marcoul, c'est un incident de niveau combien sur l'échelle INES?
Il faut savoir que les imprimantes dans le domaine nucléaire, ça fait la une des journaux. Donc ça fait référence à un article qui a quelques mois, justement, donc d'une imprimante qui a pris feu. Et en fait, dans le milieu, c'est un peu moqué des journalistes parce que chez nous, dès qu'il y a un ongle retourné, ça fait souvent la presse, au moins la presse locale. Alors après, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les procédures d'incendie, alors je ne connais pas les procédures, là, du coup, c'est Orano, mais on peut imaginer qu'ils ont à peu près les mêmes que d'autres. En fait, les gens, ils suivent la procédure. Et typiquement, à un moment donné, il y a l'appel des secours qui intervient peu ou prou en même temps que les interventions des équipes locales. Et donc, des fois, on peut voir des camions de pompiers aller sur un site nucléaire. Et quand on habite à proximité, ça fait toujours bizarre de voir débouler 5, 10, 15, 20 camions de pompiers vers une centrale nucléaire ou autre. Donc ça pose des questions. Donc souvent, la presse explique tout simplement ce qui s'est passé. Et des fois, il s'est passé quelque chose de grave. Il y a eu un incendie de transformateur sur une centrale nucléaire il n'y a pas très longtemps. Là, pour le coup, c'est plutôt un incendie impressionnant. Et des fois, il y a des choses plutôt conventionnelles, comme cet incident d'imprimante. Donc, ça peut arriver. Donc là, je ne sais pas, je pense. Je ne sais même pas si c'était classé au niveau INES. Je ne pense pas. Il faudrait que je vérifie.
Alors, on a le bétonnier qui nous dit INES 4, c'est encore un incident. Donc, ça se trouve, accident, c'est à partir de 5.
Peut-être juste niveau 5.
Je ne vérifierai pas. Et on nous dit aussi, ouais, Agence internationale de l'énergie atomique pour le A plutôt que nucléaire, mais ça ne change pas grand-chose au propos. Et après, attends, j'ai vu une question encore par rapport à ça.
Attends, je peux regarder aussi.
Du coup, Fukushima, par exemple, c'est considéré comme un accident ou comme plusieurs accidents distincts, comme il y a plusieurs cœurs qui sont fondus?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a plusieurs accidents, mais comme la cause est la même, de manière générale, on parle que de l'incident de Fukushima Daiichi. Et pour moi, on ne sépare pas les 5. Après, il faudrait voir la déclaration qu'a fait TEPCO. Je t'avoue que je ne la connais pas dans les faits, mais pour le coup, ça ne changerait pas grand-chose. Donc j'aurais tendance à parler d'un seul gros accident puisque l'initiateur est unique. Par contre, effectivement, on pourrait déclarer un incident par INB, pour le coup par réacteur.
Alors, il y a deux questions un peu proches. Il y a Neodurden44 qui demande, est-ce que l'accident nucléaire de Fukushima a provoqué des morts?
Fukushima, alors la question est vaste. Est-ce qu'il y a eu des morts sur la centrale? Oui, il y a eu des gens qui ont été piégés ou qui ont eu des accidents avec le tsunami et la destruction du bon nombre d'installations. Il y a des opérateurs sur site qui ont été piégés et qui sont morts. Donc oui, il y a eu des décès suite à la situation qui s'est passée à Fukushima Daiichi. Après, si la question c'est... Et en général, c'est plutôt celle-là qu'on pose. Est-ce qu'il y a eu des morts suite à des maladies radio-induites suite au rejet de matière radioactive à cause de l'accident de Fukushima Daiichi? La réponse est plutôt non, même si il y a au moins un cas qui a été reconnu par le gouvernement japonais de décès. Je crois que c'était un cancer des poumons. Et donc, il y a un lien qui a été tracé entre son travail, son intervention sur le site de Fukushima Daiichi lors de l'accident ou après, et sa maladie et son décès. Alors après, il y a deux façons de voir les choses. Donc, factuellement, le gouvernement japonais a établi un lien direct entre sa maladie, son décès, son activité et donc l'accident de Fukushima Daiichi. Donc la réponse à cette question est oui, il y en a au moins un. Après, à l'époque, quand c'était sorti, ça avait fait pas mal de bruit. Et je me souviens de pas mal d'articles aux États-Unis surtout qui disaient que, bah, en fait, malheureusement, c'est extrêmement difficile de faire un lien entre une maladie radio-induite et une contamination ou une irradiation. Du coup, y a pas mal de gens qui ont montré du doigt le fait que bah, le lien il n'était pas scientifiquement établi. Et donc après, il y a plusieurs choses qui ont débattu. Et ce qui est ressorti, alors ce n'est pas une position officielle du gouvernement japonais, mais ce qui est ressorti, c'est que le gouvernement japonais a pas voulu rentrer dans ce débat-là. Et en fait, la reconnaissance on a finalement un accident du travail, entre guillemets, c'était aussi le déblocage des aides de l'État pour ça. Et donc, en fait, c'est surtout pour ça que ça a été reconnu, entre guillemets, aussi rapidement et qu'on n'est pas parti dans des dizaines d'années d'examens médicaux et de jugements, de sollicitations pour pas grand-chose.
Ouais,
Donc, après.
ce que j'ajouterais, ouais, ce que
Vas-y.
j'ajouterais juste là-dessus, moi, c'est en fait, si on regarde par exemple certaines conséquences, certaines maladies radio-induites de Tchernobyl, c'est que d'un point de vue statistique, on voit l'augmentation. Mais si c'est des maladies qui existent déjà, parce qu'il peut y avoir aussi des cancers, si on regarde des cancers en particulier, il y en a aussi sans le nucléaire, et du coup, c'est impossible de dire ce cancer-là, il est lié au nucléaire. Par contre, on peut
C'est ça.
dire, voilà, l'exposition a entraîné des cancers en plus. Et donc, quand on a un cas unique ou quand on a pas beaucoup de cas, c'est impossible de savoir si c'est dû au nucléaire. Mais vu qu'il peut y avoir une augmentation de risque, par exemple, qui est liée au nucléaire, il y a une logique à indemniser. Même si c'est impossible à trancher scientifiquement. Donc je pense que
Non, mais je
c'est
partage.
logique de.
Je partage. Après, bah, pour aller dans ton sens, il y a un troisième volet à cette question-là qui est c'est très bien de parler de ce qui s'est passé sur site. Maintenant, il y a tout ce qui s'est passé autour. Et donc là, il y a plusieurs chiffres qui circulent, plusieurs qui sont dans le chat. Alors, on va rectifier un peu. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'accident nucléaire de Fukushima a fait 2000 morts à cause de l'évacuation. On pourrait en parler pendant des heures, mais grosso modo, l'évacuation autour de Fukushima s'est fait bon gré mal gré et ça s'est pas fait forcément dans les règles de l'art compte tenu de la situation. Et donc, on estime qu'il y a au moins 2000 personnes qui ont une vie raccourcie à cause de cette évacuation-là. Alors, il y a bon nombre de ces personnes-là qui, en fait, étaient des personnes âgées qui étaient dans des environnements hospitaliers autour et du coup, qui n'ont pas été pris en charge comme il se devait, et que du coup, on les compte parmi les victimes. Donc, quand on dit, voilà, Fukushima, ça a fait zéro mort, parce qu'on l'entend souvent. Bon, bah, déjà, il y en a un qui a été reconnu, au moins d'un point de vue administratif. Après, il y en a 2000 qui, quand même, comptent, parce que s'il n'y avait pas eu la centrale, et je ne suis pas sûr qu'on aurait évacué de la même façon, enfin, voilà, après, c'est des débats théoriques. Mais bon, factuellement, dans notre réalité aujourd'hui, on a quand même 2000 personnes qui sont liées à ça. Et par contre, après, des maladies radio-induites, c'est compliqué. Donc, pour revenir à ce que tu disais, reste après, en fait, les maladies radio-induites, elles sont pas forcément décelées tout de suite, c'est décelé dans le temps. Et en particulier, tout ce qui est cancer, on parle souvent d'une échelle de 10 ans avant de voir des choses qui sont statistiquement décelables. Donc les Japonais, en fait, il faut savoir que justement avec le retour d'expérience de Tchernobyl, ils ont mis en place un gros suivi sanitaire d'une population qui est assez impressionnante tout de suite au lendemain de l'accident nucléaire. Et donc pour le coup, on a vraiment un suivi assez fort de population non négligeable. Et en plus avec des choses qui sont assez intéressantes. Par exemple, ils ont fait le suivi de cancer de la thyroïde sur une population qui était exposée ou qui était dans les zones qui ont été exposées à des rejets. Et ils ont fait exactement les mêmes tests dans des zones qui n'avaient pas été exposées à des rejets. Et justement, en fait, ça, c'est pour éviter un biais qu'on a vu à Tchernobyl, c'est-à-dire qu'en cherchant, en fait, le cancer de la thyroïde, parce que c'est celui-là qu'on cherchait, bah, en fait, on a un biais où on en trouve plus que ce qu'on ferait si on avait des examens normaux. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher les nodules un peu plus loin et des nodules qui seraient peut-être passés inaperçus, on va dire, dans le quotidien. Bah là, on va les trouver parce qu'en fait, on cherche que ça. Donc, il y a une augmentation un peu artificielle du nombre due à l'ampleur des tests. Et donc, pour éviter ce biais-là, en fait, ils ont fait bah, finalement un groupe témoin. Comme quoi, ça peut servir de temps en temps. Un groupe témoin, et donc en fait, on s'aperçoit que plusieurs années après, eh ben, on a des augmentations, mais en fait, la position du gouvernement, celle de l'AIEA, celle de plein plein d'institutions, dont l'UNSCARE, dont on aura l'occasion d'en reparler, ben, en fait, ne montre, on n'arrive pas à déceler d'augmentation franche et nette d'un point de vue statistique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, parce qu'il y a forcément des personnes qui ont été impactées, mais statistiquement, c'est pas très significatif.
Ouais, et
Et ça se comprend parce qu'en fait, quand on regarde les expositions dans les terres, elles n'ont pas été très importantes en termes d'amplitude. Alors évidemment, au pied de la centrale, on trouve des chiffres impressionnants, mais en fait, on regarde dans les terres, on trouve des expositions de l'ordre du millisievert ou de quelques millisieverts. Et ça, c'est pas non plus mortel en fonction de l'élément qui est concerné, mais. Donc voilà.
Et ouais, j'ai rejoint de ça. À l'époque où j'ai regardé, ce qu'on voyait, c'est que même avec ce qu'on comprend de ces impacts-là, quand on les modélise, on s'attend à ce que statistiquement, ça soit très dur à déceler parce que ce sont des effets faibles. Par contre, ce qu'on ne peut pas retirer non plus, c'est qu'il y a eu une zone qui a été évacuée. C'est des gens qui ont perdu leur maison, leur métier, leur famille, leur environnement social. Et ça a des conséquences socio-économique qui reste grave. Et je pense que si c'était un peu à refaire ce sujet, je focuserais plus là-dessus mes vidéos que sur l'impact sanitaire, quoi.
Ouais, alors en fait c'est le quatrième volet de l'accident et c'est aussi dû au REX de Tchernobyl parce que pour le coup la gestion socio-économique des évacués de Tchernobyl c'était une catastrophe en soi et à Fukushima on a retrouvé à peu près le même genre de choses, c'est-à-dire qu'on a évacué beaucoup de personnes et derrière le suivi, le reclassement, le relogement, le suivi psychologique, et ben ça n'a pas suffi. Ou c'était insuffisant, enfin ça dépend comment tu vois les choses. Et donc là, on a eu pas mal de dégradation des conditions de vie. Bah, il y a déjà quand même un impact psychologique qui est loin d'être négligeable. On a eu des comportements bah, en fait, de l'alcoolisme, des tendances suicidaires, de la dépression, pour citer peut-être enfin, ceux qui viennent me vivre en tête. Et donc en fait, effectivement, il y a des conséquences sanitaires réelles. Pour les gens qui sont évacués, même si on les protège en fait des contaminations, des rejets, derrière on sait qu'il y a des conséquences. En fait, une évacuation, elle se fera jamais sans conséquences. Et c'est pour ça que les gens qui décident d'évacuation ne le font normalement pas à la légère. Donc voilà, l'accident. Donc pour répondre à la question, il y a quatre grands volets pour répondre complètement. Et quand on dit bah voilà, il y a eu Fukushima, c'est rien, il s'est rien passé, ça n'a pas eu d'impact. Alors déjà sanitairement, bah, c'est pas vrai. Et puis après, environnementalement parlant, bah c'est pas vrai non plus, quoi. On a quand même des zones qui sont contaminées. Alors les Japonais ont effectué un gros travail dit de reconquête, c'est-à-dire qu'ils ont gratté le sol pour décontaminer une partie du territoire. Alors, il faut savoir qu'ils ne pourront pas le faire sur l'entièreté des zones contaminées parce que en fait il y a pas mal de zones qui sont en montagne et en forêt. Et en fait ces zones-là, on ne pourront pas y aller au bulldozer pour retirer les 20 cm du sol. Donc on aura des zones qui resteront contaminées à plus ou moins forte dose, mais pendant très très longtemps. Donc ça c'est un vrai impact en soi, on peut pas le négliger.
Il y avait une question un peu plus haut qui est: est-ce vrai qu'un autre réacteur nucléaire dans la région du Tohoku au Japon a mieux géré les conséquences du séisme et du tsunami en mars 2011?
Oui, alors, bon, mieux gérer, il faut voir ce que ça veut dire. Donc, il y avait une centrale au nord, c'était Onagawa, qui était en fait techniquement plus proche du séisme que Fukushima Daiichi, et qui avait une conception un peu différente, et en particulier qui était un peu plus surélevée que celle de Fukushima Daiichi, et du coup qui n'a pas eu du tout les mêmes conséquences en termes d'inondation. Donc, le séisme a été transparent pour les centrales, il y a eu très très peu, il n'y a pas eu d'impact. Pas grand chose sur le séisme, mais c'est vraiment le tsunami derrière qui a mis à mal bah déjà le réseau électrique, les infrastructures du pays dans cette région-là. Et après, et ben, une partie des installations sur site. À Fukushima, il y a eu pas mal de zones qui ont été inondées, dont plusieurs zones qui servaient à la sûreté, comme des tableaux électriques, des diesels, des choses comme ça. Et ça n'a pas du tout aidé. Ça, en fait, ça a été ça le vrai enclencheur de ce qui amènera à l'accident. Et à Nagawa, au nord, donc un peu plus loin, ils n'ont pas du tout ça. Et en fait, l'histoire montre même que les populations locales se sont réfugiées sur la centrale parce qu'ils jugeaient que c'était l'endroit le plus sûr de la région. Donc, il y a eu pas mal de gens qui y sont allés parce que bah, ils estimaient que c'était un site qui était protégé en fait. Donc oui, la réponse est oui. Il y a une centrale qui a beaucoup mieux vécu que ce qui s'est passé à Fukushima. Bah, déjà, bon, après, c'est difficile de faire pire. Hein.
Il y a des remarques, je pense que c'est un peu plus difficile de répondre, mais Scolopax 25 demande dans le cas de Fukushima, rétrospectivement, la population aurait pu ne pas être évacuée ou moins être
Ouais,
évacuée.
alors, c'est une bonne question. C'est un débat que j'ai depuis longtemps avec certains tweetos, dont un particulier, il se reconnaîtra. En fait, il y a un débat qui dit que, a posteriori, qui dit, mais regardez, les conséquences radiologiques sont minimes. Et franchement, on aurait pu laisser les personnes sur place, elles auraient été contaminées, mais en fait, l'argument, c'est dire que la contamination n'est pas assez forte pour induire une perte d'espérance de vie qui justifie le déplacement et l'évacuation et les conséquences dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, on tombe typiquement dans l'éthique où bah, il n'y a pas de réponse toute faite, et en fait, c'est le paradoxe de la grand-mère. C'est-à-dire que vous avez une personne qui est en fin de vie, je ne sais pas, 90, 100 ans, au Japon c'est possible, elle se prend 2 millisieverts. On estime aujourd'hui que 2 millisieverts, ça va avoir une réduction de son espérance de vie qui va être minime. Est-ce que tu l'évacues ou pas? Parce que tu sais que dans l'évacuation, bah, il y a un risque qui sera peut-être plus important d'accélérer son décès. Et donc, du coup, est-ce que tu l'évacues? Et ça, en fait, on n'a pas la réponse. Et en fait, la réponse, elle se tient dans la connaissance de la gestion de crise, parce qu'il se trouve que bah, dans mes attributions, j'ai fait partie de l'équipe de crise de mon employeur pendant quelques années. Et en fait, à Fukushima, ce que les gens oublient surtout, c'est que il y avait plein de scénarios dont on ne savait pas s'ils allaient se réaliser et qui étaient beaucoup plus graves que celui qu'on a vécu. Et donc, en gestion de crise, par définition, en fait, tu es amené à prendre des décisions sur une somme d'informations qui est incomplète. C'est ça une crise, en fait. Tu ne sais pas tout. Et donc, à partir du moment où tu as des scénarios qui sont extrêmement graves et qui sont extrêmement probables, eh ben, tu peux pas te permettre de dire non, mais ça va bien se passer. Tu peux pas faire de pari. Donc aujourd'hui, la doctrine, elle a été remise en cause, elle a été retravaillée et à ma connaissance, ils n'ont pas changé les fondamentaux, c'est que l'évacuation dans une zone donnée, elle est toujours d'actualité. Et j'ai pas d'opposition à ça. Ce que j'ai écrit il y a quelques années et que je continue à prôner. Donc dire que a posteriori, oui, on aurait pu ne pas évacuer et les gens auraient peut-être été moins impactés dans leur vie, franchement, d'un point de vue purement scientifique, peut-être. En gestion de crise, en temps réel, c'est indéfendable. Donc, non, non, avec la chronologie, on aurait fait. On ne pouvait pas arriver à d'autres conclusions et à faire d'autres choses. En tout cas, pour le coup, c'est mon opinion.
Ou alors, faut avoir des voyantes en gestion de crise qui te permettent de savoir dans l'avenir et de faire tes évacuations en fonction.
Ouais, bah ça, en énergie, il y en a plein des voyants qui nous disent tous les jours ce qu'on doit faire. Pardon, excuse-moi.
Ok, alors il y a plusieurs questions qui partent un peu dans tous les sens. Peut-être juste qu'il y avait plusieurs questions sur. Donc Fukushima, il y a eu cet accident, il y a eu fusion de cœur, il y a eu des rejets vers l'environnement. Est-ce que tu peux en parler un peu de ces rejets, si tu connais un peu quelle
Oui,
forme
bah,
et.
bah alors ce qu'on craint souvent dans les accidents du coup graves, c'est des rejets de matière radioactive et surtout des rejets gazeux dans les premières heures de l'accident, les premiers jours. On parle souvent d'iode 131. Donc l'iode 131, il est souvent présent lors des accidents, il est souvent présent sous forme de gaz et donc il a tendance à s'échapper. Et en fait, il a la particularité de se fixer dans le corps humain et donc sur la thyroïde. En fait, c'est ça, c'est lui qui nous embête vis-à-vis du cancer de la thyroïde lors des accidents. C'est pour ça d'ailleurs que dans certains cas, on préconise la prise de comprimés d'iode stable lors d'un accident nucléaire. En fait, c'est pour saturer la thyroïde et pour éviter que l'iode radioactif vienne s'y fixer. Alors du coup, je me permets de passer un message. La prise d'iode, il faut la faire, ça va faire peut-être pas plaire au complotisme, mais tant pis, il faut la faire sur ordre des autorités. Et en fait, ça s'explique très simplement, c'est parce que la prise d'iode n'est effective que dans une fenêtre temporelle donnée. Donc il faut attendre, si vous la prenez trop tôt, elle ne servira à rien, si vous la prenez trop tard, c'est trop tard, par définition. Donc en fait, il faut attendre que des autorités compétentes, donc là en l'occurrence c'est l'IRSN et l'ASN, disent telle région, telle zone, vous prenez l'iode maintenant, parce que c'est là où vous maximiserez en fait les effets protecteurs. Si vous la prenez n'importe comment, à n'importe quel moment, avec n'importe quelle posologie, bon, en fait, vous allez tomber à côté et en plus, ça peut être dangereux. Pour le coup, on a aussi un retour d'expérience Tchernobyl, en particulier en Allemagne, où l'iode elle a été un peu prise de manière un peu ubuesque et ça a créé plus de problèmes que ça aurait pu en résoudre. Donc attention à ça. Donc voilà. Donc bref, pour revenir au rejet, un des aspects c'est l'iode 131 qui nous embête et parce que il est jeté sous forme gazeuse et les gaz, bon, en fait, ils peuvent aller très loin dans l'environnement et donc ça peut aller, en fait, ça peut contaminer des zones assez éloignées du lieu de production. Tchernobyl, on a des rejets à 300 km. Fukushima, c'est on a des rejets jusqu'à 200 km de mémoire. Donc ça peut aller très très loin. Plus l'accident est confiné, moins les rejets iront loin. D'accord ? Bon, ça peut-être paraître assez évident, mais ça me permet d'introduire en fait qu'en accident grave, la philosophie et l'objectif numéro un, ce n'est plus en fait la sauvegarde de l'installation, entre guillemets, la sauvegarde du cœur, mais c'est la sauvegarde du confinement. Tout à l'heure, au début, je parlais on écrit des stratégies pour aider la gestion d'accident, pour éviter les conséquences, pour aider les opérateurs. Le but de l'accident grave, enfin, le but de la gestion d'accident grave, c'est de favoriser, de maintenir l'intégrité des confinements. Si on arrive à maintenir l'intégrité des confinements, ben, en fait, il n'y a pas de rejet, et du coup, on n'a pas d'impact sur l'environnement et sur les populations. Le bon exemple là-dessus, c'est TMI. TMI, donc, c'est un accident qui s'est passé aux États-Unis en 79, sur un réacteur qui est pour le coup assez proche des réacteurs français, où ils ont été à la fusion du cœur. Voilà. Et en fait, ils ont réussi à maintenir le confinement. Et il y a eu très très peu de rejets. Bon, certains diront quasiment pas. Donc si on met les deux côtés du spectre, on a TMI où ils ont maintenu le confinement et il n'y a pas eu de rejet. On a Fukushima où ils ont géré la situation et ils ont eu quand même des rejets relativement importants. Et après, de l'autre côté, tu as Tchernobyl, où là, le confinement il s'est volatilisé et du coup, on a contaminé la moitié de l'Europe. Donc l'accident grave, c'est vraiment sauvegarder le confinement. Et donc ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que les rejets, en fait, dépendent de ta cinétique d'accidentelle. Typiquement, l'énergie qui a été libérée à Tchernobyl n'a pas grand-chose à voir avec celle qui a été libérée à TMI. Et Fukushima est bien en dessous de ce qui s'est passé à Tchernobyl.
Et ok, donc deux petites questions rapides là-dessus. C'est Florian Yonick nous dit: je viens juste d'arriver côté Fukushima, le scénario du pire lié à l'entreposage des combustibles usés dans les piscines, cela aurait pu donner quoi? Effectivement, l'incertitude sur les points et le souvenir que j'ai de l'épisode. Je sais pas si ça te...
Oui, ça me parle bien. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait des scénarios qui étaient un peu qui était pire, et effectivement à l'époque dans la gestion, donc les experts entre guillemets étaient focalisés pas forcément sur ce qui se passait dans le cœur, parce que bon bah c'est, les Japonais étaient dessus et puis bon ils géraient comme ils pouvaient. Les experts ont très vite mis en avant ou posé des questions sur l'état des piscines combustibles. Donc, les piscines combustibles, c'est un endroit où en fait on entrepose le combustible usé dans l'attente de retraitement ou de stockage final. Et donc, pour comprendre facilement, dans un réacteur, vous avez un cœur, d'accord ? Vous avez un massif d'uranium qui produit de la chaleur qu'on utilise pour faire de l'électricité, par exemple. Mais dans la piscine combustible, vous avez potentiellement plusieurs cœurs anciens qui sont entreposés. Donc, grosso modo, si vous fusionnez un cœur dans le réacteur, vous fusionnez qu'un seul massif. Si vous fusionnez la piscine combustible, vous fusionnez plus de cœurs. Donc les conséquences peuvent être quasiment sûr, de façon certaine, peuvent être plus importantes. Et donc à Fukushima, très très rapidement, les experts du monde entier, on a pas mal d'experts, l'IRSN par exemple, chez nous, on avait la NRC américaine, ont posé beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passait dans les piscines. Et les Japonais se sont évidemment aussi très très vite intéressés aux piscines et ont tout fait pour les maintenir, pour maintenir les assemblages qui étaient dans les piscines sous eau. Vous avez peut-être, je sais pas, peut-être qu'ils ont vu ça, à un moment donné, il y a une image qui est relativement célèbre, c'est qu'en fait, ils ont utilisé une pompe à béton pour remettre de l'eau dans une des piscines. Pourquoi une pompe à béton? C'est parce qu'en fait, les piscines, elles étaient en hauteur, elles sont en hauteur dans la conception de l'installation, et du coup, bah, il fallait monter l'eau jusque là-haut, et en fait, on pouvait pas prendre la pompinette du coin, ça marchait pas. Et en fait, ils ont trouvé une pompe à béton dans la région, ils ont amené, c'est comme ça, enfin, c'est une des solutions qui a été mise en place pour maintenir un niveau d'eau dans une piscine, parce qu'il y a une piscine dont on a très vite suspecté qu'elle était endommagée et qu'il y avait une fuite. Donc, le scénario du pire, ça aurait été un découvrement, donc une vidange d'une des piscines, un découvrement des assemblages combustibles et avec potentiellement un nombre non négligeable d'assemblages qui fusionnent par manque de refroidissement. Et là, l'accident aurait été, les rejets auraient été d'une autre ampleur.
C'est un suraccident quelque part, en fait.
Oui, on peut dire que c'est un suraccident.
Il y avait une question juste parce que je pense que tu as mentionné 2000 morts liées à l'évacuation. Il y a une question, c'est est-ce que c'est des morts dues à l'évacuation, dont l'évacuation à cause du tsunami? Parce qu'il y a aussi des personnes qu'il fallait... Non, c'est vraiment évacuation liée à la centrale.
Ouais. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est un chiffre qui est repris directement du ministère, des ministères japonais. Alors, pendant un temps, il a été de 1722, je crois, et après, il a été mis... Enfin, arrondi, hein. C'est un peu... C'est terrible de dire ça, mais il a été arrondi à 2000, enfin, 2200, je sais plus. Et donc, non, c'est vraiment dans l'ensemble des décès dû à la situation et au séisme de Tohoku qui est de l'ordre de 20 000 personnes, hein, et ben on estime qu'il y a bien environ 2000 qui sont dus uniquement à l'évacuation de la région autour de Fukushima. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver, hein, dans les notes de l'IRSN, hein, qui a fait un suivi très poussé de la situation à Fukushima, dont on peut retrouver en fait les notes datées. Du coup, on peut voir l'évolution des connaissances en fonction.
Ouais, il y avait eu plusieurs mentions dans le chat sur le fait qu'il y a des ressources sur le site de l'IRSN qui sont bien sur Fukushima. Il y a une question encore. Est-ce que la série Netflix The Days est proche de l'accident de Fukushima?
Alors, je vais peut-être en décevoir, mais je ne l'ai pas encore vu.
Ok, c'est pas grave.
Non, je ne l'ai pas encore vu. Par contre, donc, ce qu'on m'a dit et ce que j'ai quand même vu des extraits, la volonté... Je recommande quand même le visionnage dans le sens où la volonté de la production, ça a été de montrer comment ça a été vécu de l'intérieur. Et ça, c'est assez intéressant parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'imaginent comment est-ce que ça se passe dans une salle de commande. Il faut imaginer une salle de commande, c'est une salle au cœur de la centrale, où évidemment il n'y a pas de fenêtre et vous êtes un peu comme dans un sous-marin, quoi. Vous rentrez dans la salle, vous passez votre quart, donc le temps que vous avez à travailler, et en fait vous ressortez, il s'est passé 8 heures à l'extérieur, grosso modo il est possible que vous n'ayez pas vu le jour pendant 8 heures. Une anecdote, j'avais travaillé sur une centrale en hiver, je suis rentré en quart, il faisait un temps normal, je suis sorti après, enfin le soir, et ben en fait il y avait 40 cm de neige. Et le delta entre les deux, sans avoir pu mettre le nez dehors par une fenêtre, etc., c'est une expérience, je pense que tout le monde ne connaît pas. Donc, pour revenir à la série, ils ont vraiment voulu montrer comment ça s'est passé en salle de commande et comment les opérateurs ont vécu la situation en salle de commande. Il faut bien imaginer que les gens sont en salle de commande, ils vivent un truc hors norme, ils n'ont pas beaucoup d'informations, et en particulier, ils n'ont pas d'informations sur la situation de leur famille, accessoirement. Et la seule interface qu'ils ont avec la machine, c'est leur salle de commande, qui est en panne quasiment à 100%. Bon, on est tous formés au fonctionnement accidentel, hein, ceux qui sont sur les sites, donc on sait qu'il y a de l'enjeu, et donc là, tu te places dans une situation psychologique qui est pas idéale pour disposer de l'ensemble de tes capacités cognitives et de pouvoir réagir à 100%. Donc oui, la série, à mon avis, par cet angle-là est intéressante pour comprendre, enfin pour toucher du doigt ce genre de situation et comment c'est vécu de l'intérieur. Mais je la regarderai, je la regarderai. Par contre, je recommande pas celle sur TMI.
Et même question sur documentaire de France 2, cellule de crise de Paris à Fukushima, les secrets d'une catastrophe. Est-ce que tu l'as vu?
Alors, j'ai vu pas mal de documentaires de France Télévisions et de Arte, et j'en recommande aucun.
Ok. Ça a le mérite d'être clair. Il y avait une question sur comment doit-on gérer la montée en pression de l'hydrogène lors d'une fusion de cœur? Donc peut-être explique pourquoi on a ça et pourquoi on a ça à gérer et comment on
Oui,
fait.
alors, ouais, je sais plus, c'est Michael Mongeon qui a dit que c'était plus un dive switch, mais c'était un groupe permanent d'experts. Question sans technique. Donc, en fait, lorsqu'on a un accident grave, le meilleur moyen de fusionner un cœur, c'est d'arrêter son refroidissement. Un des meilleurs moyens d'arrêter son refroidissement, bah, c'est de vidanger en fait, le circuit primaire, c'est-à-dire en fait, d'enlever l'eau autour des assemblages combustibles. Si vos assemblages combustibles, il n'y a plus d'eau autour, bah, en fait, il va monter en température et il va fondre au bout d'un moment. Mais avant qu'ils fondent, proprement parlé, il y a des réactions qui peuvent se produire avec les matériaux qui sont qui constituent en fait le cœur. Et en particulier, il y a une réaction entre l'eau et le zirconium de certaines parties du cœur de l'installation. Et en fait, cette réaction-là, elle a pour conséquence de produire de l'hydrogène. En fait, c'est une réaction d'oxydation du zirconium qui constitue une partie des assemblages combustibles. Et on vient grignoter, alors, de manière. Je suis désolé, Kako, si tu m'écoutes, tu rectifieras. On vient grignoter en fait les assemblages combustibles et la conséquence, c'est qu'on crée une quantité non négligeable d'hydrogène. Or, l'hydrogène, c'est un gaz qui peut se montrer explosif dans les bonnes conditions de concentration et d'énergie. Là, vous avez une situation où vous avez dans une centrale nucléaire, donc il y a quand même pas mal de choses normalement qui sont électriques. Si on a un accident grave, potentiellement, il y a des feux ou des choses qui ne fonctionnent pas forcément très bien. Et si vous amenez une atmosphère qui est à haute teneur en hydrogène, eh ben, vous avez beaucoup de conditions réunies pour que ça explose. À Fukushima, une des images qui a fait le tour du monde en direct, ça a été une explosion d'hydrogène d'un des réacteurs. Je suis mauvais, je ne sais plus lequel a explosé
C'est pas très
en
grave.
premier. Mais voilà, donc ça a été vu par tout le monde en direct, ça a été découvert. Et donc, un des aspects de l'accident grave, c'est bien la gestion de cette production d'hydrogène qui doit être empêchée ou mitiguée à tout prix, sous peine d'endommager très sévèrement l'installation. Et donc, en France, depuis 2007, tous les réacteurs sont équipés de recombineurs autocatalytiques passifs, des RAP, qui sont en fait des plaques de matériaux particuliers où en fait on vient brasser l'atmosphère de l'enceinte et en fait ça vient recombiner l'hydrogène. L'idée c'est qu'on utilise l'hydrogène pour refaire de l'eau derrière et donc ça permet de diminuer la concentration d'hydrogène. Donc je pense que c'est ça qui était cité dans le chat. J'arrive pas à suivre.
Ouais. Non, il y a pas mal de questions. T'inquiète, c'est moi qui gère le chat. Et la série de Tchernobyl, parce qu'on a été aux recommandations. Est-ce que tu recommandes?
Ouais, la série de Tchernobyl. Alors, la série de Tchernobyl, on me pose souvent la question pour le coup aussi. Moi, je recommande fortement de la voir. On demande souvent s'il y a des erreurs. Alors, oui, il y a des erreurs, mais elles ne sont pas problématiques. Les erreurs, elles sont d'ordre chronologique. Il y a des événements qui ne se passent pas tout à fait au bon moment. Il y a des personnages qui sont simplifiés. Il y a des personnages qui représentent plus toutes des équipes entières. Voilà, parce que bah, ils n'ont pas pu. Au lieu d'avoir 20 scientifiques, bah, en fait, ils ont fait un scientifique. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Évidemment, c'est un petit peu romancé, mais sincèrement, et on est plusieurs collègues à avoir salué en fait l'effort pédagogique, alors sans spoiler, dans le dernier épisode, il y a une explication avec des cartons rouges et bleus d'un accident de réactivité. Dans un ancien poste, j'étais formateur sur installation. Moi, j'ai été bluffé de la manière très simple et assez juste de la manière de la physique de l'accident. C'est à saluer. Ils ont fait très très fort. Donc, pour répondre à ta question, la série de Tchernobyl, faut y aller, faut la regarder. Par contre, faut être un peu accroché parce que bah, ça prend un peu aux tripes. Surtout quand on est du métier. Enfin, ne la regardez pas si vous êtes déjà déprimé, quoi, ça aide pas. La fin est pas bonne, hein, c'est comme Titanic. Et moi, je m'en sers, hein, enfin, Je me sers de de certaines scénettes pour expliquer des manques criants à la sûreté. Donc, non, la série Tchernobyl, c'est un très bon matériau, faut pas hésiter.
Ouais. Moi, il y a un truc, je me souviens, j'avais un petit cas à l'époque, c'est, je pense qu'il y a une personne qui dit à un moment, voilà, en gros, avec la dose qu'on a pris, on aura un cancer. Et ça, je pense que c'est pas une bonne chose de le comprendre comme ça. C'est plus, en fait, vous augmentez les risques et c'est comme dire, au bout de, je sais pas, 545 paquets de cigarettes, vous aurez un cancer des poumons. C'est le même problème, un peu logique. C'est une approche, comment on dit, stochastique, avec des mots compliqués.
Bah,
Ça
c'est des
augmente la
probas en
probabilité,
fait,
quoi.
ouais.
Ça augmente la probabilité. Mais après, ouais, moi je les trouvais bien aussi. Bon, dernière question sur les recommandations, et puis ensuite on va arrêter ces questions-là, on va changer un peu. Un film sur un réacteur nucléaire sous-marin, K-19, le piège des
Ouais, le
profondeurs.
K-19, ouais. C'est un peu exagéré. C'est un peu exagéré. C'est pas inintéressant parce que bah c'est vrai que dans les sous-marins, ils ont un réacteur nucléaire et si ça se passe pas bien, bah il n'y a pas beaucoup d'endroits où se sauver, hein, pas se le cacher. Donc c'est intéressant de ce côté-là. Après, la technique derrière l'accident nucléaire, elle est pas ouf, mais c'est pas le message, enfin c'est pas le truc du film. Donc bon, moi j'aime bien ce film. Pour ce qu'il représente. Après, la réalité technique derrière, bon, y a des choses, il y a des perspectives.
Bon, dernier des derniers.
Voilà.
Est-ce que t'as vu Veritasium? Il a fait un truc sur l'uranium apparemment. Uranium Twisting the Dragon's Tales.
non.
Alors c'est pas
Non,
vraiment,
j'ai pas
enfin c'est
vu.
un confrère, il fait le même métier que moi, mais on n'est pas au même niveau quand même.
D'accord.
C'est un peu le boss
Non,
du
j'ai pas
game,
vu.
Veritasium. Moi je trouve c'est un des meilleurs vulgarisateurs d'assez loin.
Bah, c'est celui sur la vidéo sur l'entropie, là, je crois, qui a fait le tour d'Internet il y a 3-4 jours, hein, c'est pour ça.
Alors, il a fait une vidéo sur l'entropie, mais il y a
Alors la
quelques
vidéo est
temps quand même.
ancienne, mais du coup elle est ressortie au travers de discussions. Enfin
Ah
bref.
oui,
Non, je l'ai pas
parce que j'ai fait un sondage sur l'entropie là. J'ai fait.
Voilà.
Et en vrai, il y a des trucs où je tique un peu dans sa vidéo. Mais c'est bon, on va pas lancer sur l'entropie, c'est déjà assez compliqué ce qu'on fait ici.
Non mais je vais pas te spoiler. Non, mais je l'ai pas vu.
Alors, moi j'avais une question très rapide qui n'est pas dans le chat, c'est une question de moi, parce que j'ai ma propre opinion sur les choses. Donc on parle de fusion de cœur et de conduite accidentelle là. Des fusions de cœur, on en a eu en France?
Oui. Non mais c'est pas un secret.
Non, c'est pas un secret, mais c'est pas très connu par rapport à.
Ah, c'est pas très connu, mais enfin ouais, bon, je sais pas comment dire ça. J'ai envie de dire que ceux qui ne connaissent pas n'ont pas fait leur devoir. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et ça m'est arrivé parce que des étudiants m'ont fait le coup, donc c'est pour ça.
D'accord.
ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Donc, pour répondre à la question, alors il y a deux manières de voir les choses. Il y a ceux qui vont te dire non, on n'a jamais eu d'accident nucléaire de type fusion du cœur sur les types de réacteurs actuels. Donc aujourd'hui, on a en France, je me trompe, 56 réacteurs PWR, donc des réacteurs à eau pression, à eau légère et à eau pressurisée. Donc là, effectivement, on peut dire qu'on n'a jamais eu d'accident de fusion du cœur sur ce type de réacteur. Ça, c'est vrai. Mais en France, on n'a pas eu que des PWR en service, on a aussi eu des UNGG. Des UNGG, c'est des uranium naturel graphite gaz. Ça se rapproche un peu du fonctionnement. Ouais, non, je vais pas dire ça, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais grosso modo, voilà, c'était un réacteur qui a été mis en place dans les années 60 et qui avait un fonctionnement qui était très différent des réacteurs aujourd'hui. Et ces réacteurs-là ont connu deux gros incidents à Saint-Laurent dans 69 et 80, dans lesquels il y a eu une fusion partielle de combustible. Donc oui, en France, on a déjà connu des accidents graves au titre de fusion du cœur. Par contre, ça n'a pas été un accident majeur. Les rejets ont été assez limités. Même si à l'époque, bon, la communication des années 60, en plus, c'était assez lié au monde militaire, puisque ces réacteurs-là n'ont pas produit beaucoup d'électricité, c'était plutôt là pour produire du plutonium pour l'armée. Donc les informations à l'époque n'étaient pas... ça traînait pas forcément sur Internet, hein, à l'époque.
Dans les années 60, ouais.
oui, voilà, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, on a pas mal de docs. Hein. Enfin, moi, j'ai plein de rapports sur ce qui s'est passé. Donc, pour répondre à ta question, oui, on a déjà fondu des cœurs sur des réacteurs électrogènes en France. Oui, ça c'est vrai.
Et il y avait quelques questions sur. Est-ce que c'est possible d'expliquer rapidement en quoi le réacteur de Tchernobyl est différent d'un réacteur français ou c'est compliqué?
Alors, c'est compliqué, oui. Mais est-ce qu'on peut le faire facilement? Oui. En fait, en France, on a un massif. Donc, on prend des assemblages combustibles, on les réunit ensemble et on les dispose de manière géométrique pour que quand on fait passer de l'eau dedans, autour des assemblages, ben, en fait, on ait une réaction nucléaire qui chauffe cette eau-là. Cette eau-là, en fait, on l'envoie dans un échangeur de chaleur, on récupère la chaleur et on transforme de l'eau liquide en vapeur et cette vapeur, on l'envoie à la turbine pour la faire tourner et faire électricité. Ça, c'est le principe. Et donc, ce massif de ce cœur de réacteur, il est dans une cuve. Les fameuses cuves dont on entend souvent parler en France. Dans un RBMK, en fait, c'est ce qu'on appelle un réacteur à tube de force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse cuve dans laquelle vous avez tout le massif. En fait, vous avez plusieurs mini-cuves, donc ces fameux tubes de force, dans lesquels vous avez les assemblages. Alors, il y a plein de gens qui vont me taper dessus a posteriori, mais c'est pas grave, je simplifie. Et en fait, par exemple, dans la série Tchernobyl, on voit très bien à un moment donné, en fait, les différents tubes de force qui, en fait, les poids qui étaient au-dessus des tubes de force se soulevaient à cause de la pression de la vaporisation. Et à un moment, il y a une espèce de damier où on voit des plots en fait se soulever. Et ça, ils se soulèvent parce que dessous, on a de l'eau liquide qui se transforme en vapeur. Donc, on a une surpression qui apparaît. Et du coup, ça soulève en fait les protections radiologiques qui étaient au-dessus du cœur. Donc, en fait, il faut imaginer qu'on a finalement une installation où il y a plein de mini-cuves, d'accord? Ces fameux tubes de force. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez fondre un tube, d'accord? Et pas les autres. Typiquement, c'est ce qui s'est passé à Saint-Laurent, parce que les Saint-Laurent, c'était des choses qui se rapprochaient des RBMK à ce titre-là. Et donc, c'est pour ça que je dis, on n'a pas fondu tout le cœur, on a juste fondu des parties. L'autre grosse différence, c'est que tout à l'heure, j'ai dit qu'on mettait de l'eau pour évacuer la chaleur. Donc ça, c'est le rôle de caloporteur. On transporte la chaleur d'un point A à un point B. Mais en fait, l'eau dans nos réacteurs, elle a un deuxième rôle, c'est celui de modérateur. Dans nos réactions nucléaires, on a besoin de prendre des neutrons et en fait de les ralentir. Parce que quand ils sont émis à cause des fissions, ils sont trop rapides, ils ont trop d'énergie. Et en fait, s'ils rencontrent un autre atome d'uranium, on n'est pas sûr d'avoir une fusion. Une fission. Wow. Et donc, pour augmenter la probabilité de fission, en fait, il faut qu'on les ralentisse. Et pour les ralentir, on les fait heurter des molécules d'eau, en particulier atomes d'hydrogène, pour qu'ils se déchargent un peu de leur énergie. Et au bout d'un moment, eh ben, à force de taper des molécules d'eau, ben, ils vont revenir vers un atome d'uranium avec la bonne énergie qui nous donnera la bonne probabilité et donc avec une grosse, grosse probabilité de refaire une fission. C'est le principe de la réaction en chaîne. Donc chez nous, l'eau, ben, c'est aussi le modérateur. Sur un RBMK, à Tchernobyl, le modérateur, c'est du graphite. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près ça a à peu près le même rôle. Seulement, en fait, il faut imaginer qu'autour des tubes de force, bah, vous avez des piles de graphite qui sont entassées. Et c'est ce matériau-là qui va être percuté par les neutrons et après qui vont revenir dans les atomes d'uranium. Donc voilà, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Après, il y a eu plein d'autres différences, mais elles sont un peu plus techniques dans les circuits. On peut quand même en citer une qu'on entend souvent, c'est qu'on dit, ah, mais à Tchernobyl, ils n'avaient pas d'enceinte de confinement. En France et de manière générale en Occident, on voit souvent les réacteurs nucléaires comme quelque chose sous un gros dôme en béton, qu'on appelle le bâtiment réacteur, donc cette fameuse enceinte de confinement. À Tchernobyl, et donc les RBMK ils ne disposent pas de ce type d'installation. Pour autant, c'est pas pour ça qu'ils n'avaient pas d'enceinte de confinement. En fait, ils avaient des systèmes de récupération de surpression et donc qui faisaient office en fait de confinement pour un certain type d'accident. Le seul problème, c'est que l'accident qu'ils ont rencontré était bien au-delà du dimensionnement de ces protections-là. Donc, en fait, dire qu'ils n'avaient pas d'enceinte de confinement, bah, c'est pas tout à fait vrai, même s'il n'y a pas la même que chez nous. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'elle était largement insuffisante par rapport à l'accident qu'ils ont rencontré. Voilà deux, trois grosses différences entre nos réacteurs et les RBMK.
Ok, tant qu'on est sur les accidents majeurs, et du coup, l'accident anglais de Windscale, Sellafield, ça se
Oui.
place comment là-dedans? Parce qu'il y a eu aussi des rejets vers l'environnement.
Oui, alors c'est un autre type d'accident. Ça fait appel à d'autres phénomènes physiques. En fait, ce qui s'est passé à Windscale, c'est un feu de graphite. Bon, bah, du coup, le graphite sert à modérer, hein, comme je viens de l'expliquer, et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, du coup, il emmagasinait de l'énergie. Et que si on faisait pas attention, bah, en fait, il pouvait, dans les bonnes conditions, bah, s'enflammer. Et du coup, dans ces types d'installations où le graphite, au moins, il est contaminé, hein, il a été au contact de pas mal de choses, à partir du moment où tu mets le feu, eh ben, ça fait de la fumée, ça émet des matériaux, et donc en fait, tu diffuses une contamination. Et donc, c'est ce qui s'est passé à Windscale. Donc, il y a un effet qu'on appelle l'effet Wigner, je crois. Les gens corrigeront dans le chat ou après, où en fait on s'est aperçu que cette capacité d'accumulation du graphite était problématique et pouvait occasionner des feux de graphite. Et donc effectivement, le feu de graphite à Sellafield aujourd'hui a occasionné des rejets dans l'environnement de manière assez importante. Ouais.
Ok, donc pour ceux qui nous rejoignent en cours de route et qui n'ont pas été briefés ce soir, on parle de nucléaire avec Guillaume qui est, c'est quoi ton vrai titre? Ingénieur sûreté?
Je suis chargé de mission sûreté, voilà, si tu veux
Ok.
mon titre exact.
Ok, alors il y avait deux questions qui étaient un peu liées à ça. Il y en a une, vu que tu as mentionné les enceintes de confinement donc sur les réacteurs français, comment on est assuré que les enceintes de confinement sont suffisantes?
Donc elles ont un domaine de dimensionnement, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une pression à laquelle elles sont dimensionnées, elles peuvent. On sait, si on monte à 200 bars dans l'enceinte, on sait que ça ne tiendra pas. D'accord? Donc le but des études de sûreté, c'est de démontrer que quelle que soit la situation qu'on rencontre en fonctionnement, donc les lignes de défense dont j'ai parlé, quel que soit le domaine de dimensionnement, donc moi je parle par exemple des accidents graves, dans le domaine des accidents graves, on s'assure que quel que soit le scénario qu'on rencontre, eh ben, on n'atteigne jamais les pressions au-delà du dimensionnement de l'installation de l'enceinte de confinement. Si jamais on trouve des scénarios qui approchent ou dépassent ces pressions de dimensionnement, donc typiquement ça peut arriver pendant la conception de l'installation, il faut revoir la copie. Soit il faut faire en sorte que cette montée en pression, on la mitigue, c'est-à-dire qu'on empêche qu'elle aille jusque-là, soit on l'empêche, soit il faut revoir le dimensionnement de l'enceinte. Donc aujourd'hui, les enceintes de confinement, on estime qu'elles tiennent tous les scénarios qu'on a dans la démonstration de sûreté. Et ça, c'est revu régulièrement, en particulier avec les autorités de sûreté. Et c'est un des aspects qu'on voit, par exemple, lors des VD. Donc, les VD, c'est des visites décennales tous les 10 ans, où en fait, on est obligé de faire des steps de sûreté. Et typiquement, on apporte des améliorations de connaissances ou des nouveaux scénarios à prendre en compte, des choses comme ça. Et donc là, on revoit en fait le dimensionnement. Ça passe par en fait des codes de calcul. Hein. On a plusieurs codes de calcul qui permettent de simuler les accidents et leur impact sur l'installation. Et donc à partir du moment où on démontre qu'il y a un impact qui est supérieur à des seuils, et ben ça veut dire qu'il faut qu'on agisse pour faire en sorte que ça n'arrive pas.
Ok, très bien. Ça va? Tu fatigues pas trop?
Non, ça va. Je suis dans mon domaine de confort, enfin si je puis dire.
Ok, bon, il y a eu quelques questions sur le projet de fusion ASN-IRSN. Je sais pas si tu veux en toucher quelques mots, t'es pas obligé, hein.
Non, c'est un peu compliqué. En plus, ils sont en train de faire le vote là ce soir. Ça a peut-être commencé là, c'était à 21h30, je crois. Non, j'ai pas d'opinion sur la question. Il y a de tout. Je suis pas hyper convaincu par le niveau de débat qu'il y a sur Twitter en particulier, enfin sur X, pardon. Je trouve que ça rend pas hommage aux enjeux qui sont derrière, mais non, j'ai pas d'avis sur la question.
Et il y avait une question
Question sur le.
ce qui était ouais du coup quand la France a choisi ses réacteurs à eau pressurisée, du coup on a récupéré une technologie de Westinghouse, donc une technologie américaine sous licence, blablabla. Pourquoi on a fait ça
Ouais.
plutôt que continuer sur les uraniums naturels graphite gaz qu'on a fait en France, quoi?
Et c'est une excellente question. Donc pour ceux qui sont peut-être renseignés, puisque cette question-là, à mon avis, n'est pas totalement innocente, surtout dans sa formulation. En fait, il y a eu une guéguerre entre EDF et le CEA à l'époque, dans les années 60, pour savoir justement quelle filière on allait construire à échelle industrielle. Le CEA était défenseur d'une technologie fille des UNGG, alors que EDF prenait les réacteurs à eau légère. Et à un moment donné, il y a le politique qui a choisi la filière PWR. Alors après, il y a plein d'écrits, de discours, de témoignages dans des livres des uns et des autres qui donnent un peu leur version, mais ça a été une décision politique. Après, ce qui s'est passé, c'est que y avait chacun a présenté des arguments techniques, hein. À l'époque, il y avait quand même pas mal d'ingénieurs qui étaient sur l'affaire, même aux plus hautes sphères de l'État. Et les arguments qui ont été poussés pour le programme américain étaient assez forts en termes surtout de réplication. C'est-à-dire que la capacité industrielle était présente en France, mais on avait aussi un soutien américain, la technologie était éprouvée. Il y a plein de choses qui ont fait que ça allait. Je me souviens plus, et c'est dommage qu'il faudrait que j'appelle mes copains historiens, mais je ne sais pas dans quelle mesure la diplomatie avec les Américains est intervenue. Je ne saurais pas, parce que le général de Gaulle était un peu enfin, portait pas forcément les Américains dans leur cœur. Mais voilà, mais c'est une décision politique en fait hein, qui a été faite. Mais effectivement, à l'origine du programme nucléaire, la question s'est posée de partir sur la filière actuelle ou sur une filière type UNGG. Et le choix a été fait de partir sur le PWR en connaissance de cause. D'accord? Mais ça a été un choix politique.
Ok, il y a eu plusieurs questions déjà sur est-ce que toi tu bosses sur les EPR, EPR2 et tout ça, et là il y a une question qui fâche de Valdon 88. Ah non, pardon, je la prendrai après celle-là. Qrobot dit, est-ce que le nouvel EPR peut être considéré comme plus sûr que les centrales actuelles?
Alors je prends les deux questions. Moi, je bosse sur tous les réacteurs électrogènes en termes de conception ou d'autres. Donc, ça comprend le parc actuel, ça comprend le EPR1, le EPR2, les réacteurs à l'étranger, EPR, et le SMR de EDF, NIWA. Voilà, donc pour faire, donc je devrais être capable de répondre à un certain nombre de questions sur l'ensemble de ces réacteurs-là. Donc le PR2, oui, je bosse dessus. Et donc la question, c'est est-ce qu'il est plus sûr que les centrales actuelles? La réponse est oui. Tout simplement parce qu'il intègre beaucoup plus de choses à la conception. Et ça a été formalisé dans les objectifs de sûreté de la quatrième visite décennale des réacteurs de 900 MW. Puisque l'un des objectifs qui a été prôné par l'exploitant et qui a été accepté et surveillé par l'ASN et l'IRSN, c'était de faire tendre la sûreté des réacteurs actuels vers le référentiel de sûreté qui était devenu l'EPR. Donc on voit bien. Et ça a été prôné parce que l'ASN ne veut pas avoir à gérer plusieurs niveaux de sûreté sur le parc français. On pourrait en débattre, mais du coup, donc il y a bien un step à faire pour les réacteurs actuels pour tendre vers une sûreté des réacteurs EPR. Donc inversement, les EPR sont plus sûrs que les réacteurs du parc actuel.
Il y avait une question, c'est plus sur l'exploitation. Attends, faut que je te la retrouve. Oh, aïe, je l'ai perdu, je l'ai perdu. EDF pour gérer les centrales nucléaires, c'est mieux quand c'est nationalisé ou privatisé? C'est moins ton expertise, ça.
On tombe dans le domaine de l'opinion. En fait, pour répondre plus sérieusement à la question, on a des contre-exemples dans les deux cas. TMI, c'était privé. Tchernobyl, c'était public. Fukushima, c'était privé. Saint-Laurent, on n'a pas été, c'était public. Donc en fait, c'est une fausse question. Ce qui compte vraiment, c'est le niveau de culture sûreté des gens au local. Qu'ils soient privés ou publics. Le reste, c'est un peu accessoire. Je prends un exemple. Il y a une centrale nucléaire aux États-Unis qui s'appelle Davy-Besse, où en fait, ils sont passés pas très loin d'une brèche dans le circuit primaire au niveau du couvercle du réacteur, pour différentes raisons. Dans l'arbre des causes, ce qui est assez fourni, il y a un manque de culture sûreté. C'est-à-dire qu'en fait, dans le management de la sûreté sur site, il a été reconnu qu'il y avait des défaillances énormes. C'est-à-dire que le management a refusé de traiter des signaux faibles, voire signaux qui étaient devenus forts, de dégradation de l'installation, qui in fine, aurait pu amener à un accident nucléaire. Donc, pour moi, public-privé, on tombe dans l'idéologie, et d'ailleurs, il y a la question des moyens alloués, ou des notions de performance, ça dépend comment on voit les choses. Mais ce qui compte vraiment, c'est la mentalité et le niveau de culture sûreté des gens sur place. Alors, quand je dis ça, c'est facile, hein, parce qu'on est assis derrière un bureau et je sais que j'ai des gens qui sont actuellement sur site en train de produire les sites qu'on utilise. Ça dépend aussi donc du management et des moyens qu'on leur donne. D'accord. Donc tout ça, c'est assez compliqué à faire et on n'y a pas de réponse simpliste quoi pour répondre. Mais je mettrais en avant la culture sûreté en avant le fait que ce soit public ou privé qui, à mon avis, ne rentre pas en ligne de compte.
Okay.
T'as plein de questions, t'as le choix.
Bah, prends-en une si tu veux.
Je sais pas. L'IRC dans Gref. Non, je vais pas prendre celle-là. Bah, ça, t'as déjà répondu. Est-ce que Taishan, c'est plus sûr? Oui. Taishan, c'est un réacteur EPR et la technologie est plus sûre que les réacteurs qu'ils ont pu construire dans les années 80-90. Donc, c'est le même type de réponse. Les fameux soudeurs de FLA3, lui, alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dit dessus. Enfin, FLA3, on pourrait y passer une séance entière, beaucoup de choses à dire. Des choses qui ont été dites, qui sont, à mon avis, peut-être, mériteraient d'être rectifiées, c'est qu'on n'a pas de problème de compétences de soudure en France. Par contre, pendant un moment, on a eu un problème de nombre, tout simplement. Et donc, il y a effectivement, c'est EDF qui a fait appel à des soudeurs, en fait, américains, en l'occurrence, parce qu'on a besoin de bras. Ça c'est aussi pendant la période de la CSC. Et concernant le cas de Flamanville précisément, il y a un épisode où les Américains ont été sollicités aussi, c'est la reprise des soudures du secondaire, puisqu'il avait été démontré qu'elles n'avaient pas été fabriquées dans les règles de l'art, donc il a fallu les refaire. Et en fait, EDF a conçu avec son partenaire qui est Westinghouse, un robot pour refaire ces soudures-là. Et les Américains ont des compétences très, très abouties dans ce domaine-là. Et donc, en fait, on a été les chercher. C'est aussi simple que ça. Les Français ont été les chercher parce qu'ils étaient bons. Et que là, il fallait, dans certains cas, faut aller aussi au plus vite. Et donc, voilà. Mais bon, on aurait pu le faire aussi. La CSC, on a développé des outils, on a eu besoin de personnes. Les Français ont aussi leurs propres compétences.
Alors, cette paire de Flamanville, tête de série ou prototype?
je sais plus. Non, je crois que dans la loi, il était désigné comme étant prototype. Après, dans le langage courant, on parle plutôt de tête de série. Ça va si je m'en sors comme ça. Alors j'ai du mal à parler de prototype quand même parce que ça reste un réacteur REP dont on connaît quand même bien le fonctionnement. Par contre, il y a pas mal de choses en plus, comme on l'a dit, qu'on est venu rajouter. Je pense qu'il est plus correct de parler de tête de série puisque déjà on va en construire deux à l'origine. Donc je dirais plutôt tête de série.
Pense Mogger 29 propose modèle unique.
Alors, il a pas tort. Il a pas tort.
Est-ce que tu serais OK pour aller surfer à Flamanville? Pas peur des rejets
Non, 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 j'ai aucun problème. J'ai vécu sur site, j'ai fait trois sites dans ma carrière. J'ai vécu à proximité. J'ai été sur les retenues d'eau à proximité. Non, j'ai aucun problème.
Et Paquito, non. Et pas d'avis sur fusion d'IRSN et d'ASN. Désolé.
Non. Non, il n'a pas donné son avis dessus parce qu'il n'en a pas...
Mais on lui a déjà demandé. Bon. Y a une question sur la fusion, mais c'est moins intéressant. Il y a une bonne question de Guillaume FR. Quelle question on t'a pas posée à laquelle tu aimerais répondre? Tu es venu peut-être pour parler d'un truc particulier dont tout le monde...
Non, je suis venu parce que tu m'as invité, déjà. C'est quand même la base. On se pose souvent la question aussi, il y a un sujet, c'est, mais tu en as déjà traité beaucoup sur ta chaîne, c'est l'avenir du mix énergétique. La question du nucléaire, elle enflamme un peu les débats. Et en fait, on est souvent très très vite bloqué par des guerres de position, des dogmes ou des croyances ou je sais pas. Et en fait, le débat, il s'arrête très très vite. Et le nucléaire, on a beaucoup beaucoup souffert depuis très longtemps. Et en fait, les autres types d'énergie commencent ou depuis quelques années subissent un peu la même chose. Je me souviens il y a quelques années de l'éolien qui s'en prenait quand même plein la tête et du coup qui se plaignait un peu du niveau de débat. J'ai dit bah
bienvenue.
voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a un problème de communication. Je trouve en France sur les problèmes scientifiques et les problèmes industriels. Et je trouve que dans les domaines énergétiques, quelle que soit la filière, que ce soit nucléaire, ENR, éolien, ça, je trouve que les filières ne communiquent pas assez. Si les gens racontent autant de bêtises, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, dans le journal de 20h ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils ne trouvent personne pour leur dire des choses. D'accord. Donc en fait, un message que moi j'aimerais passer, parce qu'il y a peut-être des communicants qui m'écoutent ou qui viendront me parler dans quelques jours, il faut absolument qu'on arrive à communiquer sur ces enjeux. Et en fait, il faut absolument donner des billes aux personnes. Et je pense qu'il y a certains aspects qui sont sous-estimés. Par exemple, on a pu voir, il y a eu pas mal d'auditions là où en fait, il y a certaines personnes qui parlent à des personnes de la représentation nationale qui n'ont pas forcément autant de connaissances techniques. Et finalement, c'est pas ce qu'on leur demande. Et j'en ai vu certains qui se moquaient en fait du niveau des questions. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, par contre, c'est que derrière, ils aient des équipes qui, elles, n'arrivent pas à se renseigner et du coup, n'arrivent pas à faire évoluer le débat. Quand des journalistes demandent des informations et qu'ils n'arrivent pas à en avoir au-delà des éléments de langage, des communiqués de presse, etc., ben, en fait, après, ils vont voir d'autres personnes et ces personnes-là, après, ben, racontent un peu ce qu'elles veulent. Si on prend l'exemple du nucléaire, pendant près de 30 ans, les personnes qui étaient invitées, c'était essentiellement des anti-nucléaires, mais parce que ces personnes-là étaient disponibles, et puis bah, en fait, ils sont venus parce qu'on les a invités. Ils se sont jamais imposés quelque part, enfin, en tout cas sur les plateaux télé. Donc le message, tu parlais de message, il faudrait qu'on arrive à communiquer plus sur nos domaines d'expertise, et... la population, on va dire lambda, avec tout le respect que je lui dois, n'est pas l'unique cible en fait de la communication. Aujourd'hui, on a des experts, des gens qui sont très 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 bons dans leur domaine, qu'ils soient économiques, qu'ils soient techniques, qu'ils soient de sûreté ou éthique ou sociale, etc., qui demandent d'avoir un niveau de discussion au niveau de leurs compétences. Il y a des débats là sur Twitter sur la modulation, sur la thermo, sur bidule, machin. Et en fait, les réponses qui sont apportées ne sont pas au niveau d'un expert technique. Et je pense que ça, il faudrait qu'on arrive à y travailler. Il faudrait qu'on arrive à trouver des vecteurs où il y a des communications techniques au bon niveau qui soient diffusées pour pouvoir répondre à ces interrogations-là, parce qu'après, ben, en fait, on voit des discours qui sont jugés anecdotiques et qui peuvent avoir des répercussions, parce que en fait, moi, j'ai déjà vu des discussions sur Twitter, puis après, je les ai vues sur un plateau de télé, et puis après, je les ai vues sur le bureau de la ministre. Donc, si tu veux, c'était... Je pense qu'on a besoin, quelle que soit la filière énergétique, pour me limiter à ce domaine-là, il faut qu'on arrive à communiquer plus, et il faut qu'on arrive à communiquer au bon niveau. Et je pense que la communication technique, il ne faut pas la proscrire. Il y a des gens qui sont demandeurs et qui ont une audience, qui ont une influence, et il ne faut pas les laisser de côté.
Donc, voilà. Ok. Donc, tu encourages les différents acteurs des filières de communiquer davantage?
Ouais. Il y en a qui l'ont compris. Il y en a qui l'ont compris. On a de plus en plus de vidéos YouTube, on a de plus en plus de parcours d'explications sur les parcours professionnels. J'ai essayé à mon niveau de donner des explications sur le fonctionnement d'une centrale ou autre. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Et ça vient, mais c'est difficile, c'est dur.
Et d'ailleurs, je crois que tu avais filé un coup de main à un collègue pour une vidéo YouTube.
Ouais, et puis ça s'est transformé en bouquin derrière. Il y a Osons Causer, c'est Ludo qui est venu me poser des questions.
Ludo et Stéphane.
Ouais, Ludo et Stéphane. Et en fait, de quelques questions, ça s'est transformé en plusieurs heures de débat et d'échanges, de relecture des scripts et de correction de dessin. En fait, on a passé énormément de temps à parler, mais en même temps, ils avaient un projet de vidéo qui était extrêmement ambitieux. Je crois que je me souviens de la première phrase qu'ils m'ont dit, c'est « Voilà, on veut faire une vidéo, il faut qu'on résume la sûreté en 45 minutes. » Et je leur ai dit tout de suite, je dis bah va falloir faire des choix quand même parce que ça me paraît un peu ambitieux. Et donc effectivement la vidéo qui est sortie, elle est bah je pense de bonne qualité. Ça, je suis pas le seul à avoir participé, hein, il y en a d'autres.
Ouais, non,
La actrice.
franchement, c'est impressionnant. Moi, quand j'ai commencé à
Et...
regarder en sûreté, j'ai fait OK, ça non. J'ai rien sur la chaîne sur la sûreté. Je suis content que leur vidéo soit là. Hein.
Non, elle est très bien. Alors évidemment, elle est partielle, elle est simplifiée. Même moi, je leur ai dit, ah, mais ça, on peut pas. Et puis ils disent, ouais, mais sinon, on va rajouter 1 heure. Je dis, oui, c'est effectivement. Bon, bah, ok. Voilà, ils ont été voir. Après, ils en ont tiré un livre. En fait, de tous les échanges qu'ils ont eus avec plusieurs personnes, ils ont tiré un livre. Je dois l'avoir quelque part. Ah non, je l'ai prêté.
L'avenir de l'énergie, du coup?
Ouais, c'est ça. Et dedans, ils reprennent pas mal des éléments qu'ils ont pu glaner, en tout cas là-dessus. Et c'est vraiment du très très bon boulot. Donc ouais, j'y ai passé du temps à titre perso, mais je suis super content parce que le résultat il était énorme et en plus, bah, je
C'est
disais
le 12,
à
aujourd'hui
l'instant
on
que
va
bah,
se
il fallait qu'on communique plus. Quand t'as des gens qui sont intéressés, qui sont pas de la filière, qui disent voilà, nous on veut traiter de ça et on a plein de questions et du coup on sait pas à qui les poser. Et je dis bah je peux peut-être en répondre à certaines et effectivement on y a passé un sacré moment. Mais c'était une très très bonne expérience. Moi je suis hyper content du résultat. Ça répond à pas mal de questions. C'est parcellaire. Alors, les experts de la sûreté pourront dire qu'il manque des choses, que c'est pas phasé, la chronologie n'est pas expliquée, tout ce qui est cité n'est pas encore installé. Oui, c'est perfectible. Mais un rapport de sûreté, ça fait plusieurs milliers de pages, hein. Donc le résumé en 45 minutes, je vous assure, c'est déjà une belle prouesse, quoi.
Est-ce que tu as déjà eu des interactions avec des journalistes, par exemple?
Ouais, il y a plusieurs journalistes qui sont déjà venus me trouver sur Twitter et on a discuté. Pas forcément, pas que pour des problèmes ou des questions d'actualité. Alors, ça m'est déjà arrivé de donner mon avis sur telle ou telle actualité, mais aussi des fois juste pour des compréhensions techniques. Des sujets qui sont un peu à la mode ces dernières années, on a le problème de l'eau, on a le problème de la corrosion sous contrainte, on a le problème des grands chauds, on a le problème de la chaleur. Enfin bon. Et donc j'ai des journalistes qui ont mon contact et qui périodiquement viennent me poser des questions techniques et j'essaie de les éclairer le plus fidèlement possible. Pour qu'en fait après ils puissent comprendre les enjeux. Après ils écrivent ce qu'ils veulent, hein, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'arrive encore.
Guillaume, il demande quels journalistes ont compris le nucléaire et pourquoi Stéphane Soumier et Yves Calvi?
Alors, ces discussions qui sont hyper intéressantes parce que j'ai rarement eu des journalistes scientifiques. Pour le coup, mais ils ont toujours été suffisamment disponibles, il ou elle d'ailleurs, pour comprendre. Et j'ai pas rencontré de personne qui me disait je comprends rien de toute façon ou j'ai 5 minutes, je veux poser 3 questions et puis en fait vous répondez pas à la question, je me casse. Enfin, j'ai jamais eu ça. Toutes les personnes qui sont venues me voir, alors, il n'y en a pas non plus des milliers, hein, mais celles et ceux avec qui j'ai pu interagir avaient toujours à cœur de comprendre. La technique et après d'essayer de mettre pour mettre en perspective les enjeux un peu plus sociétaux ou d'actualité. Donc moi ça m'a plutôt réconcilié en fait avec certains scientifiques où je me dis bah il y en a qui prennent encore le temps et le temps on sait que c'est ce qui leur manque le plus souvent. Donc je voulais surtout pas ne pas leur accorder à partir du moment où justement eux essayaient de le prendre. C'est ce que je disais, à partir du moment où il faut qu'on essaie de communiquer, bah, c'est un peu ton invitation aussi. Je pense qu'il faut qu'on communique plus. Du coup, lorsque j'ai l'opportunité de faire, bah, j'essaye de le prendre.
Et pas d'accès au bureau de la ministre.
Non. Non, mais j'ai déjà discuté avec des députés. Ouais, ça m'est déjà arrivé.
Mais c'est pas mal déjà. C'est pas
Voilà,
mal.
écoute.
Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions autour de ça? S'il y en a que ça intéresse, les aspects de communication, de vulgarisation. Il y a des questions
Ça, j'ai
originales
pas
quand même.
trop. Non, mais Il y a la quatrième génération, il y
Ouais,
a...
on peut être... ouais, il y a eu pas mal de questions sur l'ASMR, quatrième génération, thorium, si ça t'intéresse. Juste avant, question de troll. Si Didier Raoult faisait une reconversion dans le nucléaire, il nous vendrait quoi?
La fusion froide.
Ah, ok. Ouais, tu t'en sors bien. Ok, qu'est-ce qui te tente? Quatrième génération,
On peut partir un peu sur la quatrième
surgénérateur,
génération.
SMR.
On peut commencer par les SMR et ça nous emmènera vers la quatrième génération.
Ok, donc SMR, c'est quoi?
Alors, SMR. Donc, le nom anglais, c'est pour dire petit réacteur modulaire. Et donc, le principe, c'est de faire un réacteur de petite puissance. En tout cas, plus petite que les puissances conventionnelles. Donc aujourd'hui, un réacteur nucléaire tel qu'on l'entend de manière conventionnelle, c'est grosso modo 1 000 MW, c'est 1 gigawatt. C'est nous 900. En France, on a des réacteurs de 900 MW, de 1 300 MW, de 1 400 MW et de 1 650 MW un jour. Et donc, grosso modo, le marché il est aux alentours de 1 gigawatt. Les Américains vendent la P1000, qui est à 1 000 MW. Les Coréens vendent un 1 400. Enfin, voilà, donc,
Attends,
grosso modo,
l'API 1000? Ah.
1000. Ouais, c'est.
Ah, ok, je croyais que c'était McDo qui se lançait dans le SMR.
Bah, t'es pas le premier à me demander. Mais oui, c'est l'API 1000. Je suis près du micro. Oui. Donc. Dans les années 50, en fait, au début du nucléaire, les deux filières se sont opposées. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont partis sur des gros réacteurs, typiquement entre 600 et 1 000 MW, et il y en a qui sont partis sur des petits réacteurs. Et en fait, l'économie, c'est surtout aux États-Unis, et en fait, l'économie a déclaré vainqueur les gros réacteurs. Mais il faut savoir que du coup, ce que je fais de cette information-là, c'est que le SMR n'est pas une idée nouvelle. En fait, le SMR était déjà là au tout début de l'industrie nucléaire civile. Et même, c'est même le premier type de réacteur qui a existé, puisque les premiers réacteurs, en fait, c'était les réacteurs de sous-marins. Et les sous-marins, bah, c'est des réacteurs des SMR, en fait. Ce qu'on appelle aujourd'hui SMR. Voilà. Donc déjà, le SMR, ce n'est pas une idée nouvelle, c'est une idée plutôt ancienne, et qui, en fait, avait, entre guillemets, perdu la guerre économique par rapport aux gros réacteurs. Pourquoi est-ce que c'est revenu sur le devant de la scène là, depuis quelques années? C'est parce que le contexte économique lié aux installations nucléaires fait que le SMR redevient intéressant à partir du moment où il arrive à démontrer la viabilité de son modèle économique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on a pas mal d'acteurs. Essentiellement des acteurs électrogènes, électro-intensifs, pardon, des gros industriels, etc., qui recherchent en fait des sources de puissance électrique qui ne soient pas couplées au réseau. Alors soit électrique, soit de chaleur, hein, ça marche pour les deux. Et c'est là qu'est venue en fait l'idée de s'intéresser au SMR parce que bah en fait il est possible de créer un petit réacteur nucléaire adossé à une grosse installation électro-intensive qui leur permette grosso modo de se couper ou de d'être en autonomie vis-à-vis du réseau. Donc ça a beaucoup d'avantages parce qu'en fait ils ont la main mise sur l'énergie dont ils ont besoin et puis bah en fait ils sont pas trop soumis au soubresaut du réseau. On a pu voir bah, malheureusement ces quelques années où le prix de l'électricité sur les marchés ont soit été très très élevés, soit ont été très très faibles. Et du coup, bah, en termes de viabilité économique pour des industries, c'est pas forcément la panacée. Voilà, donc c'est. Et après, il y a un troisième point qui est venu renforcer l'idée, c'est bah, la lutte contre le réchauffement climatique, contre le changement climatique, puisque dans le domaine électrogène, la grosse tache noire, c'est les centrales à charbon. Et en fait, quelque chose qu'on peut voir assez rapidement, c'est que les centrales à charbon, elles sont quasiment toutes dans le même groupe de puissance. Elles sont aux alentours de 200, 400 MW, à peu près. Et ça, eh ben, c'est typiquement le domaine de puissance d'un SMR. Et donc l'idée qui a germé, qui a fait son chemin, et en particulier aux États-Unis, c'est là où c'est vraiment très très fort, c'est de dire bah on peut peut-être au lieu de construire des gros réacteurs qui prennent un peu de temps, même aux États-Unis, on peut peut-être faire des choses plus petites, mais qui viennent juste entre guillemets remplacer les centrales à charbon. Ça a beaucoup d'avantages. Alors, on ne peut pas forcément remplacer la chaudière et conserver le secondaire parce qu'il y a des problèmes de température, etc. Mais en fait, on peut surtout réutiliser toute l'infrastructure réseau. associé à ces centrales à charbon. Et donc, le SMR, il a vraiment pris son envol grâce à ça ou à cause de ça, comme vous voulez, sur l'idée qu'on pourrait, ça serait un facilitateur pour se passer plus rapidement des centrales à charbon. Et c'est ça le cœur du sujet. Donc voilà les trois points en fait du SMR. Ça, c'est le pourquoi on s'en réintéresse au SMR. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail si tu veux.
Ouais, attends. Je vais
Ouais.
poser des questions comme ça parce que c'est de l'ASMR. Attends, je vais fouetter un
Ah,
peu ma barbe.
ouais,
Voilà. Alors, juste pour comprendre cette logique de ASMR, est-ce que c'est un truc qu'on peut construire partout au même endroit en série et ensuite le déployer comme ça ou?
Alors, c'est le but. C'est le but, l'idée. Alors, l'idée, le concept qu'il y a derrière ta question, c'est ce qu'on appelle les spécificités de site. L'objectif des SMR, c'est bien de pouvoir répliquer la même installation à plusieurs endroits. Et typiquement, une partie des modèles économiques repose là-dessus. On parlait tout à l'heure de l'EPR. Force est de constater que cette réplication n'a pas été faite de manière optimale. Je peux le dire comme ça. Et donc ça vient en grande partie des spécificités de site. On cite souvent HPC, donc HPC c'est l'EPR qui est en train d'être construit en Angleterre, et j'ai encore vu passer des tweets aujourd'hui, qu'on disait oui, il y a des différences non négligeables entre l'EPR qui est construit à HPC et l'EPR qui est construit à FA3. Et c'est vrai, il y a des différences. Ça c'était dû en fait aux suites de l'instruction. Avec l'ONR, l'ONR c'est l'autorité de sûreté anglaise, qui a demandé des choses différentes. Et du coup, on arrive à des spécificités de sites qui sont différentes. Autre chose, en fait, il faut aussi tenir compte de l'environnement. Il y a les réacteurs EPR à Taishan, en fait, ne disposent pas de la même source froide que les Anglais. La température de l'eau n'est pas la même. D'accord? Donc ça veut dire que ta source froide elle est différente, forcément. Okay. On parle souvent, par exemple, de deux centrales un petit peu célèbres, Baraka, donc aux Émirats Arabes Unis, qui est dans un désert, hein, en fait, au bord de mer, mais qui est quand même dans un désert. Bah, c'est pareil, l'air ambiant et la source froide n'est pas du tout à la même température que celle des Anglais. On parle d'une centrale qui est relativement célèbre aux États-Unis, c'est Palo Verde. Elle est en plein désert et il n'y a pas de source d'eau autour. D'accord? Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de lac. Ça a été une source d'eau artificielle. Donc, ces spécificités de site imposent quand même une adaptation du design. Un EPR, par exemple, est en chemin ou en train de né négocier en Inde. En Inde, l'activité sismique n'est pas du tout la même que celle de Flamanville. Donc, ça veut dire que, il faut au moins, à minima, vérifier que le design fonctionne, d'accord? Ou que tes marges de sûreté soient assurées, etc. Donc, tu es quand même obligé de vérifier que tes spécificités de site sont sans impact sur ton design. Et dans le SMR, eh ben, ça prend une importance très importante, très, très importante, puisque ton modèle économique repose en partie sur la réplication du même modèle. Donc l'objectif, c'est bien que les spécificités de site aient le moins d'impact possible sur ton design. Ça fait partie du cahier des charges. Donc oui, le SMR est prévu pour se déployer le plus identiquement possible dans tous les sites.
Et ça pourrait revenir moins cher qu'un EPR?
Oui, ça pourrait revenir moins cher qu'un. Alors ça dépend. On parle par unité d'énergie produite. Hein,
Ouais.
ouais. Oui, ça pourrait revenir moins cher qu'un EPR. Par contre, une autre partie du modèle économique repose aussi sur ta capacité à en vendre beaucoup. Par exemple, il y a plusieurs annonces un peu fortes là, qui ont été faites soit par les Américains, soit par exemple les Polonais. J'ai parlé des Polonais. Il y a quelques mois, les Polonais se sont vantés d'acheter 76 SMR, d'avoir des plans pour 76 SMR. Bon, tout le monde les a regardés en disant. Ouais, déjà vous avez acheté à qui? Et puis c'est 76 les mêmes. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Par contre, l'idée qui est derrière, c'est que plus tu en construis, et plus en fait ton usine de fabrication va répliquer les mêmes pièces, et en fait c'est un peu du Fordisme, je pense. Je vais me faire taper sur le dos par les économistes, mais c'est l'idée. Tu fais diminuer tes coûts. Une partie du modèle économique du SMR, c'est bien de faire reporter la diminution de l'échelle sur le nombre d'unités que tu produis. Et donc, en fait, tu vas faire gagner ta marge de rentabilité, elle se déplace de la taille de ton installation vers ta capacité à en construire plein, pas cher. C'est ça l'idée. Donc, enfin, pour aller plus loin dans cette idée, ça veut dire que dans le modèle économique du SMR, il va falloir quand même en avoir vendu ou en vendre un certain point pour que ça devienne intéressant d'un point de vue économique. Et c'est pour ça que tous les constructeurs de SMR, en fait, parlent souvent de plusieurs clients. Si on prend par exemple donc les modèles SMR, donc il y avait une NuScale qui est toujours en place, mais qui parle de plusieurs clients. Ils avaient un modèle aux États-Unis qui est tombé à l'eau, mais ils avaient des plans en Roumanie et dans un autre pays en Europe de l'Est. D'autres constructeurs américains, le BWXT 300, bah c'est pareil, ils ont pas mal de plans en Pologne. Et en fait, à chaque fois, ce qui est commun à toutes ces annonces, c'est le nombre. Jamais aucun client ou aucun constructeur va dire: ah, là, on va vendre un SMR. C'est pas l'idée. C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'en vendre plusieurs.
Ok, et il y avait une question justement sur les questions de sûreté. Donc, j'ai vu quelques trucs passer, notamment, est-ce que c'est pas plus compliqué de gérer la sûreté de plein de petits sites que de gérer la sûreté de quelques gros? Et est-ce
Alors,
que
il y
c'est
a...
des enjeux différents de sûreté? Est-ce que.
Ouais, alors ça dépend ce qu'on entend par sûreté. Alors la sûreté, il y a peut-être amalgame. Il y a la sûreté nucléaire d'un côté, donc ça, je peux y répondre facilement. Souvent, l'argument qui est mis en avant, c'est plutôt l'aspect sécurité, malveillance. Si vous multipliez le nombre d'endroits, bah, de manière assez évidente, vous allez avoir une multiplication des transports, multiplication des sites. Et donc aujourd'hui, on estime que sur une centrale nucléaire, vous avez des plutons de gendarmerie en France qui sont déployés pour la protection des sites. Est-ce que si on a multiplication des sites un peu partout, et comme je dis, bah, par exemple, adossé à un site industriel, est-ce qu'il faudra un peloton de gendarmerie aussi pour ça? Ça, c'est des questions qui se posent, effectivement. J'ai pas la réponse à ça. Je pense que ça dépendra aussi de ce que les entreprises ou les acheteurs de SMR sont prêts à déployer en termes de mesures de sécurité. Ça, c'est pour l'aspect sécurité. Puisque la réglementation imposera aussi, parce que l'ASN a fait une communication il n'y a pas longtemps, justement, où ils ont dit qu'ils allaient être très vigilants sur les exigences de sûreté associées à ces nouveaux outils, entre guillemets. Ça, c'est pour l'aspect sécurité. Pour l'aspect sûreté, en fait, on n'a pas le droit, enfin, les constructeurs de SMR n'ont pas le droit d'avoir un niveau de sûreté qui soit inférieur à celui d'un Gen plus, d'un Gen 3 plus, d'un Génération 3
Et
plus.
génération 3, c'est quoi?
Génération 3, c'est l'EPR, l'EPR 2, grosso modo.
Ok.
Donc, les dernières générations, comme je disais tout à l'heure, les réacteurs du parc, en fait, doivent
Ouais.
tendre vers ce type de sûreté. Les SMR n'auront pas le droit d'être en dessous.
Ouais, j'en profite
C'est
parce
ça
qu'il y
qui
avait une question que j'ai un peu
est...
zappée qui était, tu vois, si la sûreté va de 0 à 100%, c'était formulé comme ça. Hein, donc 100%, mettons, c'est risque zéro.
Ouais.
Ça a été quoi les différentes générations en fait, tu vois? À quel point on a amélioré la sûreté?
Ouais,
Je sais pas si c'est quantifiable, mais déjà, est-ce que ça s'est
c'est un...
amélioré? Est-ce que
Alors oui, ça s'est
au
amélioré.
fil des générations?
Je vais te faire une réponse de juriste. Ça s'est amélioré parce que c'est dans la loi. On est obligé de l'améliorer. Donc ça s'est amélioré. Il y a des outils en fait pour évaluer le niveau de sûreté. Alors, j'aime pas trop utiliser ces outils-là en termes absolus parce que ça fait appel à des probas et c'est pas forcément très juste. Mais grosso modo, il y a un outil qu'on appelle les EPS. Les EPS, c'est les études probabilistes de sûreté. L'idée, c'est qu'en fait, on passe au grill toute l'installation d'un point de vue probabilité et en fait, on donne des probabilités de défaillance à tous les organes de la centrale. D'accord? Et on fait tourner en fait des scénarios et on essaye de faire ressortir les modes de défaillance qui t'amènent à des rejets. D'accord, ou des fusions du cœur ou autre. Et ça permet en fait de vérifier ta conception. C'est ce qu'on appelle l'approche probabiliste de sûreté, comment dire, en opposition ou en complément de l'approche dite déterministe. Bref, on pourrait y revenir un peu plus tard si tu veux. Donc l'idée derrière ça, c'est que...
Merci.
L'idée qui est derrière ça, c'est qu'en fait, on a une valeur de probabilité de fusion du cœur pour chaque type de réacteur. Alors, le problème, c'est que ce chiffre-là, il existe donc pour chaque palier, pour chaque VD, etc. Mais par contre, tu ne peux pas le comparer brutalement d'une VD à une autre. Typiquement, aujourd'hui, on a des réacteurs de 900 MW qui sont en VD3, donc ils ont un chiffre en probabilité associé à la fusion du cœur, et on a des réacteurs de 900 MW qui sont en VD4, ils ont un même chiffre. Et en fait, le chiffre est très proche. Mais le souci, c'est qu'en fait, le périmètre qui est derrière est complètement différent. Du coup, tu peux pas les comparer brutalement. Si tu veux, il faudrait prendre le chiffre de la VD3, extraire du modèle de calcul EPS de la VD4 le même périmètre de calcul et mettre pour le coup ces deux chiffres côte à côte. Et là, tu pourrais les comparer. Et là, on verrait une augmentation, une amélioration. Donc oui, il y a une amélioration de palier en palier, de VD en VD. D'accord? Donc aujourd'hui, on dit souvent, enfin une phrase que moi j'aime bien, c'est que la sûreté des réacteurs aujourd'hui en France, bah, c'est celle de la décennie en cours. D'accord? C'est pas celle initiale. Il y a d'autres pays qui ont pris d'autres décisions. On parle souvent des Américains en ce moment. Les Américains, en termes de référentiel de sûreté, eux, ils doivent maintenir le niveau de sûreté initial de la construction. Et ils ne sont pas forcés d'augmenter drastiquement leur sûreté ou d'être au meilleur niveau technologique. Des meilleures techniques actuelles. Donc, à voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions justement suite
Parce
fusion
que
SN et SN dessus.
là, tu es en train de dire aussi qu'avec le mode du fonctionnement nucléaire aujourd'hui, un réacteur en fonctionnement en France est plus sûr qu'au moment de sa construction.
Oui, ça c'est indéniable.
Ok. Il y a une question, tant qu'on parle de ça, de Yousbar qui dit à propos de la sûreté nucléaire, un argument qu'on peut souvent entendre sur le nucléaire, c'est sa viabilité à l'avenir dans un monde qui sera a priori de plus en plus instable géopolitiquement. Est-ce que les problématiques sont abordées dans ton métier et comment sont protégées nos centrales par rapport à ce risque? Mais ça c'est une différence entre sécurité ou sûreté. Y a pas quelque chose comme ça?
Bah là, pour le coup, ça englobe pas mal de choses, parce que la géopolitique, ça peut toucher plein de choses. Ça peut être un changement de gouvernement, ça peut être une guerre, ça peut être plein de choses. C'est un argument qui en fait est tentaculaire. On peut partir sur tout et n'importe quoi. On a un exemple très fort qui est la guerre en Ukraine. On peut partir d'un fait, c'est qu'aujourd'hui, si on prend la centrale de Zaporijja, la centrale de Zaporijja, aujourd'hui, elle ne produit plus d'électricité. Ça, c'est factuel. D'accord? Et ce n'était pas prévu. D'accord? Donc, si on regardait, je ne sais pas si quelqu'un un jour avait fait un scénario de la rentabilité de la centrale sur, je sais pas, 80 ans, bah, il n'avait peut-être pas prévu qu'en 2021, 2022 et peut-être enfin 2024, il y ait une guerre avec la Russie et que la centrale elle produise zéro électricité pendant X temps. D'accord? Donc évidemment que les centrales nucléaires sont sujettes au soubresaut géopolitique. Malheureusement, ce n'est pas les seuls. Si on regarde par exemple toujours l'Ukraine, les Russes, pour le coup, n'ont pas été tendres avec les autres installations énergétiques ukrainiennes. Ils ont rasé les centrales à gaz, ils ont rasé les champs photovoltaïques, ils ont rasé les quelques éoliennes qu'il y avait à droite à gauche. Donc en fait, quel que soit ton mode d'énergie, l'énergie, c'est quand même une cible prioritaire en fait dans les manœuvres stratégiques. Donc côté une centrale nucléaire ou pas, ça change pas grand-chose. Après, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est le nucléaire, on dit souvent que c'est une industrie au temps long. Et donc du coup, la stabilité des décisions politiques a une influence non négligeable sur l'avenir de la filière. En France, c'est un sujet qui est très récurrent. On a eu pas mal d'audiences là, il n'y a pas très longtemps, qui ont essayé de faire un peu le tri des décisions des 30 dernières années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que y a des décisions qui posent question. On va dire ça comme ça.
Quelle diplomatie!
Donc du coup, évidemment que ça a un impact. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects de nos sociétés qui ne soient pas dans le même cas. On prend par exemple en Allemagne. En Allemagne, ils ont une volonté très forte de mettre des ENR dans leur réseau et on ne peut pas dire qu'ils n'aient pas réussi à faire ça. Par contre, ils n'ont pas forcément le succès à escompter sur d'autres champs. Et des fois, il y a des années où ils n'arrivent pas à remplir leurs appels parce que la politique a changé sur telle ou telle offre ou telle subvention, etc., etc. Donc en fait, on a quand même des aspects qui peuvent être très lié à la géopolitique. Aujourd'hui, par exemple, on a un problème sur les coûts de la supply chain. La chaîne d'approvisionnement impacte très très fort l'éolien et du coup, ça réduit pas mal l'expansion. Donc oui, la géopolitique impacte. Et donc dans le nucléaire, ce qui touche peut-être plus, c'est que comme on a besoin de beaucoup d'investissements à l'initial, contrairement peut-être à des projets ENR, eh ben, ça peut refroidir les ardeurs de pas mal d'investisseurs. Donc oui, ça a un impact.
Alors, on a un exemple plus concret. Bonjour, est-ce qu'un missile balistique russe peut provoquer la fusion d'un réacteur français? On est dans le secret défense, là.
Comment je peux m'en sortir? J'ai joué à Civilization il n'y a pas très longtemps et non pas. Non, la question a été posée à l'IRSN en fait hein, pour Zaporizhzhia. Donc je vais m'en sortir comme ça. Zaporizhzhia donc était a essuyé des tirs hein, d'armes légères, enfin, plus ou moins légères, et donc on a été posé la question à l'ASN ou l'IRSN, je sais plus un des deux, en audition, de savoir bah, est-ce qu'un ar armement peut détruire une centrale nucléaire. La réponse est oui, puisque en termes d'armement, on a plein d'idées et on sait faire plein de choses, et que de toute façon, les centrales nucléaires ne sont pas dimensionnées pour résister à une agression militaire de cette intensité. Dans le cahier des charges, dans le rapport de sûreté, il n'est pas écrit qu'on se doit résister à un missile balistique. D'accord? Ça, c'est factuel. Donc, si quelqu'un a un missile balistique ou autre, hein, un truc qui fait assez aussi mal, qui vise précisément l'installation n'est pas faite pour résister à ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que viser, c'est pas si simple que ça. Pour l'ensemble de l'armement, même s'il y en a qui peuvent être très précis. Et l'autre, donc ça c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est qu'il n'existe pas beaucoup d'installations dans le monde qui aient autant de systèmes de sécurité redondés. À raison d'ailleurs. Donc dit autrement, si jamais on a une attaque d'une envergure importante sur une centrale nucléaire, bah, ça reste quand même le meilleur équipement qui dispose de systèmes de sécurité pour y faire face. Alors ça sauvera peut-être pas tout. D'accord? Mais ça existe quand même. Et donc ça veut dire que pour aller jusqu'à la fusion du cœur, donc il faut décider d'attaquer de manière comment dire très importante, un missile balistique, enfin je sais pas, aujourd'hui j'en ai. C'est quand même pas une décision qu'on prend à la légère. Il faut réussir à toucher l'installation, et il faut réussir à la toucher en suffisamment d'endroits pour que bah, les différents systèmes de l'installation soient HS en même temps, etc. Si vous vaporisez l'installation complètement, bah, le problème il se pose dans d'autres amplitudes. Mais si vous essayez juste de faire une fusion du cœur, il faut quand même être sacrément doué et il faut réussir à toucher les bonnes installations. Donc, je réponds à la question comme ça. Si vous voulez casser une centrale nucléaire à l'aide de tout l'armement qui est disponible au monde, bah, vous y arriverez. Parce qu'on arrive bien à taper des bunkers 30 mètres sous le sol. Je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à passer une enceinte. Par contre, le pendant, c'est que les installations nucléaires, en termes de fabrication humaine, c'est quand même les outils industriels qui disposent de plus de systèmes de sécurité et parmi les plus performants. Donc voilà ce que je pourrais te répondre là-dessus.
Ok. Ok, je pense qu'on va rester encore une demi-heure et puis après on dira qu'on a fini. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à le chat s'il y a des sujets que vous vouliez voir abordés.
On avait dit qu'on allait sur la génération 4, parce que j'ai pas fini sur les SMR.
Ouais, vas-y.
Donc, je continue sur les SMR. Donc, les SMR, donc j'ai expliqué d'où ça venait, pourquoi ça revenait entre guillemets à la mode et pourquoi est-ce qu'on y allait aujourd'hui, dans quel cadre, etc. Il y a un autre aspect des SMR ces dernières années, c'est qu'on ne se limite pas au design actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AIEA a recensé, je crois, plus de 70 designs de SMR dans le monde. Bon, ils n'iront pas tous dans la fabrication, mais grosso modo, on distingue deux grandes familles. Il y a ceux qui sont issus des technologies actuelles de réacteurs à eau légère et qui finalement sont là pour remplacer ou pour épauler, on va dire, le réseau électrique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Typiquement, New World se situe dans cette famille-là. Les réacteurs américains aussi. Et après, il y a les réacteurs, les SMR, dits souvent AMR. Alors, le A, je ne sais jamais à quoi ça fait allusion, mais grosso modo, c'est les réacteurs en rupture technologique. Et souvent, ce sont des réacteurs dits de quatrième génération. C'est-à-dire que c'est là où on va trouver des réacteurs au sodium, type Astrid ou Exana, où on va trouver des réacteurs au plomb. Donc il y a plusieurs.
Alors on te dit le A, c'est Advanced.
Merci, mais bon, ça change souvent. Mais ok, merci, je noterai. Donc il y a plein de noms célèbres qui sont sortis ces dernières années. Donc tout à l'heure, j'ai vu Bill Gates passer dans le chat. Donc il y a Natrium, il y a Exana en France, qui est une filiation plus ou moins prononcée avec Astrid. Et on a plusieurs startups du CEA, comme Arkeos.
Attention quand tu frottes, on entend.
Ostréox. On a des startups qui se sont lancées comme Jimmy, par exemple, ou Nucleo, des choses comme ça. Bref, tous ces constructeurs, toutes ces startups-là ont un point en commun, c'est qu'ils veulent mettre sur le marché des réacteurs de petite taille, petite puissance, avec des concepts issus des réflexions sur la génération 4. Donc la génération 4, c'est quoi ? C'est des réacteurs qui sont une génération après nos réacteurs actuels. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'on a un saut générationnel ? C'est parce qu'on a une rupture technologique entre les deux générations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de génération 3+, entre l'EPR et les autres, parce que finalement, il n'y a pas de rupture de technologie entre les deux. La génération 4, qu'est-ce que c'est ? On utilise en fait des matériaux qui sont complètement différents. Par exemple, le caloporteur, ça peut être du sodium, ça peut être du plomb, ça peut être des sels fondus, etc. Mais souvent, la rupture la plus importante, c'est qu'on n'utilise pas les mêmes neutrons pour faire de la fission. Les neutrons qu'on utilise aujourd'hui dans les générations 2 et générations 3+, ce sont des neutrons dits thermiques, c'est-à-dire des neutrons qu'on a ralentis pour pouvoir faire les fissions. Dans les générations 4, on utilise souvent des réacteurs dits rapides pour l'utilisation de neutrons rapides, c'est-à-dire des neutrons qu'on n'a pas ralentis. Ça, c'est un gros avantage, c'est qu'en fait, ça multiplie le volume d'uranium disponible. Puisqu'en fait, de l'uranium qu'on ne peut pas utiliser ou très mal utiliser dans les réacteurs de génération 2, 3, 3+, en fait, peut être utilisé assez facilement dans les réacteurs de quatrième génération. Certains disent aussi que, en fait, du coup, ça permet de réutiliser pas mal de l'uranium qui est déjà passé dans des réacteurs de génération 2, 3 ou 3+. Et donc, en fait, ça permet de fermer un peu plus le cycle du combustible. Donc, en fait, de réutiliser une partie des matières valorisables.
Donc ça permettrait d'utiliser ce qu'on appelle l'uranium de retraitement qu'on sort du combustible, mais ça permet aussi d'utiliser l'uranium appauvri, qui est le rejet de la production de combustible, quoi.
Oui, alors l'uranium appauvri, en fait, on peut déjà l'utiliser dans les réacteurs actuels. C'est ce qu'a fait justement EDF il n'y a pas longtemps, en réactivant une filière URE à Cruas. Donc en fait, on a utilisé des matières valorisables, on a recyclé en fait des matières pour réalimenter un. Donc c'est pas du MOX, hein, c'est encore autre chose. Dans les générations 4, en fait, on peut surtout utiliser le potentiel de l'uranium 238 et non plus uniquement l'uranium 235. Et c'est ça, en fait, qui multiplie les ressources disponibles, parce que là, on compte en centaines ou en milliers d'années à consommation équivalente les ressources disponibles dans le domaine du nucléaire. Donc voilà, c'est ça l'intérêt, en fait, des générations 4. Génération 4. Ça permet donc de multiplier les ressources, ça permet de fermer un peu plus le combustible, donc de limiter les déchets associés, etc.
Ouais, je vais juste faire une parenthèse. Donc, dans la nature, quand on a de l'uranium naturel, il y a deux isotopes dedans qui sont 235 et 237. Le 235, oui. Merci. 235 et 238. 235, c'est quoi ? C'est 0,7%.
C'est ça.
0,7%. Et c'est celui-là qu'on utilise dans les réacteurs traditionnels, qu'on enrichit, ouais, etc. Mais c'est celui-là qu'on peut casser, quoi, qui est efficient.
C'est ça.
Et donc, du coup, ça veut dire que dans l'uranium qu'on va chercher dans la nature, au lieu de se servir de ces 0,7% pour schématiser un peu, on pourrait aussi se servir de tout le reste. Donc, ça multiplie par un peu plus d'un facteur 100.
Ouais, les chiffres, en fait, quand tu fais les calculs, sont assez impressionnants. Ouais. Si tu arrives à tout utiliser de manière correcte. Voilà. Et après, il y a un autre aspect, c'est que, du coup, tu multiplies tes ressources disponibles, mais en fait, tu peux aussi avoir des générateurs, des réacteurs génération 4 qui peuvent fonctionner en sur-générateur. C'est-à-dire que en utilisant donc les bonnes configurations, en fait, ils vont produire eux-mêmes leur combustible pendant un temps donné. Et ça multiplie d'autant plus, en fait, ta capacité d'utilisation de ton combustible. Le côté surgénération est assez tentant, effectivement.
Alors, moi, ce que j'avais vu, je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'est une compréhension un peu superficielle, je pense, mais ce que j'avais vu, c'est que la France s'était inquiétée un peu des réserves d'uranium dans le monde, et c'est pour ça qu'on avait commencé à aller vers les surgénérateurs, et en fait, l'uranium est resté assez abondant et bas en coût, et c'est aussi pour ça qu'on s'en est un peu détourné. Je sais pas à quel
Ouais,
point c'est
alors là,
vrai.
j'imagine qu'il y a plein de gens pour nous expliquer que de toute façon, ce qu'on va dire ou ce qu'on a dit est faux et que ça mériterait des nuances. Dans tous les cas, je pense qu'effectivement, en France, on a l'essor du nucléaire est né en fait des chocs pétroliers hein, des années 60-70 et d'une volonté d'indépendance ou en tout cas de moindre utilisation des fossiles dans la génération d'électricité. Et donc, du coup, il y a quand même une part de volonté de s'extraire, en fait, de se passer d'une ressource énergétique. Je pense que la génération 4 en France, parce qu'en France, on a quand même eu deux réacteurs, dont un qui était donc Phénix et Super Phénix, qui devaient démontrer la viabilité de ce mode de fonctionnement. Et je pense que derrière, il y a effectivement cette idée de pouvoir disposer de cette ressource technologique, au cas où. L'uranium venait à manquer ou qu'il y ait des problèmes géopolitiques dont on parlait tout à l'heure, etc. Maintenant, ce qui ressort des diverses auditions là qu'on a entendues depuis des années, c'est que effectivement les coûts de l'uranium sont restés relativement bas et que du coup les industries elles n'ont pas montré une appétence très forte pour la quatrième génération. Donc après, les débats sur la génération 4 sont infinis, donc je suis désolé pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que je dis. Mais grosso modo, c'est un des aspects qui n'a pas permis l'essor de cette génération-là. Mais il y en a d'autres qui suivent encore cette voie-là. On peut citer les Russes, hein, qui ont quand même des réacteurs qui sont en service depuis longtemps et qui fonctionnent à peu près bien. Les Japonais sont toujours là-dedans, même s'ils ont arrêté dernièrement un réacteur. Ils veulent continuer à travailler dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les Américains qui ont mis quelques générations 4, et puis donc les fameux SMR qui veulent relancer le concept. Voilà.
Et Néocortex demande, depuis tout ce temps où la théorie du retraitement d'une partie des déchets nucléaires par la Gen 4 est établie, pourquoi aucun
Ouais.
pays ne l'a fait?
C'est en partie ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on n'a pas eu le besoin. Le besoin s'est pas fait sentir. Et du coup, personne n'a poussé le concept jusqu'au bout. Si on prend Super Phénix en France, donc un réacteur qui était pour le coup un prototype, ou un démonstrateur, pardon, excusez-moi. Ça a montré que ça marchait, mais que bon, il y avait encore des questions à résoudre, et c'est ce que devait résoudre Astrid, et Astrid ne verra jamais le jour. Alors, les questions, les raisons pour lesquelles Astrid ne verra jamais le jour, elles sont de deux ordres. Il y a des aspects techniques et il y a des aspects de coût. D'accord? Et aujourd'hui, celui qui détient quand même le cordon de la bourse, en particulier au CEA, c'est l'État. Et à partir du moment où l'État décide de ne pas faire, en fait, on ne fait pas. Donc c'est aussi simple que ça, entre guillemets. Aujourd'hui, encore une fois, il y a les Russes qui ont deux réacteurs et qui progressent à leur rythme sur le fonctionnement du réacteur au sodium. Donc ils fonctionnent, donc le côté rapide est assumé et il fonctionne bien. Il y a dernièrement, ils ont introduit du MOX, donc ça marche très, ça marche. Et après, un jour, ils s'interrogent sur le côté surgénérateur, un jour ou l'autre. Donc il y en a d'autres qui continuent.
Ouais, et d'ailleurs, ça permet de rajouter un truc qui est, et on pourrait étendre ça aux questions sur la fusion, etc., qui est, c'est pas parce que ces technologies existent et c'est pas parce qu'elles peuvent fonctionner qu'elles sont moins chères que les alternatives. Tu vois, c'est parce que c'est ça qui tranche au final, c'est ça qui fait la.
Oui, aujourd'hui, on a quand même un essor des renouvelables qui est très important et en plus qui est dans le monde entier, le plus possible, on espère. Et ça, c'est une vraie alternative sur plein de choses. Et puis en plus, ça a des retours sur investissement, au moins en termes de climat, assez rapide, quoi. Donc, et ces alternatives-là, elles n'existaient pas il y a 50 ans, quoi.
Ouais, mais je pensais même entre les technologies nucléaires, c'est pas qu'une question technique, c'est et c'est pour ça qu'il y a l'intérêt. Enfin, l'idée des SMR, c'est un peu ça, c'est avoir des effets d'échelle, sur lesquels les renouvelables ont été très forts, par exemple, parce que c'est des plus petites unités.
Alors, c'est un des aspects. Effectivement, il y en a beaucoup qui disent que bah, voilà, les SMR essayent de reproduire un peu le modèle économique des renouvelables. Je pense que c'est pas faux. Je pense que c'est même assez vrai. Par contre, c'est là aussi qu'interviennent les startups, parce que les startups, bah, elles vont... on ne sait pas quelles startups iront au bout ou quel design iront au bout. Par contre, bah, elles s'autorisent des idées, entre guillemets, nouvelles, que les gros acteurs n'ont pas envie d'investiguer. Et ça se retrouve chez Westinghouse, chez EDF, chez le CEA, tout ça. Donc les startups ont un vrai, à mon avis, un vrai rôle de développement de briques technologiques, au moins dans un premier temps. Je leur souhaite d'aller jusqu'au bout de leur design, mais au moins dans un premier temps, c'est le développement de briques technologiques que les gros acteurs ne veulent pas endosser. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, ce foisonnement en fait d'idées qu'on vit en ce moment, là, des années 2020, finalement, on avait à peu près le même dans les années 50. Ça fait un peu du bien parce qu'il y a des gens qui prennent des risques sur le développement des technologies. Et je pense qu'on en a besoin.
Il y avait une question qui a été reposée, donc je vais la prendre. Je pense que ça relève un peu de la sûreté. En plus, je répète ma question pour plus tard. Est-ce qu'il y a des études sur l'impact du réchauffement climatique sur les centrales, notamment sur la partie refroidissement ?
Oui. Oui, la réponse est oui, puisque la durée de vie des installations va au-delà des horizons conventionnels, et donc du coup on a l'obligation, en fait les exploitants ont l'obligation de prendre en compte ça. Donc en fait chez EDF, j'avais fait une conférence il y a pas longtemps, ils se basent sur les rapports du GIEC tout simplement, et après ils extrapolent, ils prennent en compte dans le dimensionnement de leurs installations. On parlait de l'EPR2, il y a eu beaucoup de ramdam là justement sur l'EPR2 en disant qu'il n'était pas adapté, qu'il prenait pas en compte le changement climatique. Ben, en fait c'est faux. Typiquement le réchauffement climatique tel qu'il est, il est stipulé ou il est envisagé par le GIEC avec les scénarios les plus pénalisants, sont pris en compte, et donc après il y a un dimensionnement qui est fait, quoi. Donc c'est bien pris en compte pour le nouveau nucléaire et pour le parc actuel aussi. Les VD, c'est l'occasion pour les exploitants et les autorités de sûreté, en France en tout cas, de mettre sur la table justement les nouveaux enjeux et le réchauffement climatique en est. Chez EDF, ils ont un programme qui s'appelle le Grand Chaud, où en fait bah, c'est typiquement, alors ça s'appelle pas prise en compte du réchauffement climatique, mais en gros c'est pour faire face à des températures élevées, que ce soit dans la source froide ou dans l'air, et en fait c'est bien de ça qu'il est question. Donc en fait, on a vraiment une adaptation des centrales à des températures de plus en plus élevées. Donc c'est bien bien pris en compte dans l'installation. Après, est-ce que alors ça empêchera pas les marronniers annuels de l'été de voir des réacteurs potentiellement baisser leur puissance parce que le fleuve auquel il est rattaché est un peu trop chaud. Mais c'est bien pris en compte.
Et est-ce que ça, c'est un enjeu de sûreté du coup, quand le fleuve est un peu trop chaud ?
Non, bah non, c'est pas un enjeu de sûreté. Je ça m'énerve pas, mais comme c'est fait au moins 15 fois qu'on a répondu à cette question,
ouais,
sur
Twitter,
et avec Tristan Kamal, on s'était pris par la main là, et on avait fait deux trades pour essayer de clore le débat, et puis on n'a pas réussi. Bref, non, aujourd'hui il n'y a pas d'enjeu de sûreté associé à la montée de la température. J'ai encore vu un article de presse tout à l'heure qui disait que si le fleuve était trop chaud, le réacteur pouvait pas se rafraîchir. Enfin, tout à l'heure, je parlais en bien des journalistes. Il y a aussi des journalistes qui écrivent n'importe quoi, et ça en fait partie. Donc non, la température d'un fleuve, quel que soit son niveau de température, en fait, pourra toujours refroidir un cœur. Ça, c'est pas un souci. Pourquoi est-ce que EDF ralentit, baisse la puissance ou arrête ses réacteurs ? C'est parce qu'en fait, l'installation est soumise à des arrêtés de rejet thermique. Et donc, en fait, ils n'ont pas le droit de réchauffer le fleuve au-delà d'un certain seuil. Et ça, c'est dans la loi, ce sont des arrêtés. Et le but de ça, c'est de protéger la faune et la flore à l'endroit, enfin en aval surtout, de la centrale. Donc, si les seuils, si en fait vous avez un seuil, je ne sais pas moi, qui est à 30 degrés, et que l'eau qui arrive en amont de la centrale est à 31, et ben ça ne marche pas. Voilà. Donc, on a eu le cas, il y a eu 2003, je crois qu'il y a eu 2019, et puis donc il y a eu 2023, mémoire, où en fait la question des dérogations de l'ASN à ces arrêtés de rejet ont été posées. Et donc, si l'ASN estime qu'il y a un intérêt pour, je sais pas, pour la sûreté du réseau électrique par exemple, de déroger temporairement à ces arrêtés de rejet, elle est en capacité d'accorder ces autorisations aux exploitants. Donc ça a été fait, je crois, l'année dernière sur 5 centrales. N'a pas été utilisé sur la plupart d'entre elles, mais ça, c'est une possibilité. Mais derrière, il n'y a pas d'enjeu de sûreté, d'accord? Faut bien comprendre, quand un réacteur fonctionne normalement, si on prend un 1300, bah, il fonctionne avec une puissance thermique 3 fois 1300 MW, d'accord?
Et
Donc, on refroidit. Quand il est arrêté, eh ben, on n'a que 1% ou quelques pourcents de ces 3 fois 1300 MW à refroidir. Donc, c'est rien du tout.
s'il y avait une réduction importante de débit ou si je sais pas il y avait plus de fleuve.
Alors, dans la sûreté, on dit souvent, si tu me casses toute mon installation et que derrière j'ai une météorite, un tremblement de terre, une invasion, etc., effectivement, à un moment donné, ça ne marche plus. Sur une centrale nucléaire, si tu me coupes le fleuve, effectivement, je vais avoir un souci. Mais là, on n'est pas tout à fait dans le même cas. Avant, c'était le fleuve, il est un peu trop chaud. Et là, on dit, j'ai plus de refroidissement. En fait, ça revient à une perte de source froide. Et ça, par contre, c'est un accident. En tout cas, c'est une situation qu'on est censé pour, qu'on, à laquelle on est censé pouvoir faire face.
Et il y a Chococlet qui dit que ce serait pas instantané, il y a un débit en dessous duquel tu arrêtes le réacteur, mais peut-être que tu peux discuter de ce truc de une fois qu'on a arrêté le réacteur, il nous faut un peu de refroidissement quand même.
Oui, non, mais c'est vrai, il a raison. D'ailleurs, je subodore qu'il a quelques connaissances sur la question. En fait, on parle souvent de la température parce que c'est souvent ce qui se passe l'été, mais pas que. En fait, on a aussi des obligations, enfin des seuils qui sont sur le débit. Et on a aussi, c'est vis-à-vis du phénomène d'étiage. C'est-à-dire que bah, après, il peut y avoir des remontées de bancs de sable et ça peut perturber en fait la prise d'eau. Enfin, je me fais insulter, mais c'est pas grave, je simplifie. Donc effectivement, il peut y avoir d'autres soucis. De la disponibilité de la ressource en eau que la température, juste la température des fleuves. Pour autant, bah, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est prévisible, et il y a peu de chances qu'un exploitant se fasse surprendre du jour au lendemain sur ce genre de choses. D'accord? Si je prends le cas d'EDF, ils ont pas mal de barrages hydro, et donc ils ont pas mal de compétences sur la prévision. De la ressource en eau. En fait, ils ont un espèce de Météo France de la pluie en France, et donc ils sont extrêmement pointus sur la prévision en fait de la ressource en eau en fonction de la bah, des choses un peu évidentes de la pluie, de la fonte des neiges, de la température, de la sonnalité, etc. Donc en fait, EDF a des compétences en interne très 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 poussées sur cette fameuse ressource en eau. Donc j'aurais plutôt tendance à leur faire confiance sur ce point, quoi.
Et il y avait une question aussi un peu plus haut. Ce qui est inquiétant, c'est que la construction de nouvelles centrales France sont sur des sites qui sont en zone inondable avec la hausse du niveau de la mer d'ici 50 à 60 ans. Ça
Oui,
aussi, c'est pris
alors.
en compte ou...
Oui, alors, bah oui, c'est pris en compte parce que, comme je disais tout à l'heure, la réponse facile, c'est oui, non, mais vous inquiétez pas, tout est pris en compte. C'est quand même vrai dans le sens où tout à l'heure je disais que EDF prenait en compte les rapports du GIEC. Mais ils ne prennent pas en compte un chapitre et pas l'autre. Il ne faut pas de choix, il ne faut pas de cherry picking. Il y a des aspects sur la montée en température, il y a des aspects sur la montée des océans, et il y a aussi des aspects, et c'est celui-là le plus important, sur la multiplication des événements extrêmes. En termes d'agression, donc agression naturelle. Donc oui, c'est pris en compte. Après, comme bah, je viens de le dire là, mon opinion, pour le coup, je travaille pas sur le sujet, mais mon opinion, c'est que la montée des eaux, on aura le temps de la voir venir et de s'en prémunir. Ce qui n'est pas forcément le cas, ou du moins, il faut démontrer qu'on est plus en capacité de le faire vis-à-vis des événements extrêmes. Parce que des événements extrêmes, on en a déjà vécu. Et bah, ça s'est pas toujours bien passé, que ce soit en France ou ailleurs. Donc en fait, il y a un rapport à la temporalité qui est différent. La température, on sait que ça va monter, on a des scénarios qui sont très pessimistes, et donc on sait qu'on a quelques décennies enfin, on a au moins une décennie ou quelques décennies pour y faire face. Donc, on peut modifier les installations, on peut changer la conception des centrales qu'on pense, ça, on peut prendre en compte. La montée des océans, je crois que c'est quelques mètres à 100 ans. Je peux me tromper. Je vais me tromper, je vais certainement me faire rectifier. Ça, on peut s'en prémunir. D'accord? On a des technologies quand même qui sont présentes au Japon, qui sont présentes aux Pays-Bas, etc., pour faire face à cette montée des océans. Et en termes de temporalité, on peut y faire face. Une tempête, ça peut tomber demain. D'accord? Et donc, si tu me dis qu'avant, on en avait une tous les 50 ans et que demain, on risque d'en avoir trois par an, eh ben, ton installation, elle devra se prémunir plus vite contre ces tempêtes-là que contre la montée des océans. D'accord? Alors voilà comment j'essaie d'arranger les choses. Donc la réponse facile, c'est oui, c'est pris en compte. Et après, quand on rentre un peu dans le détail, en fait, ça demande de hiérarchiser en fait les soucis. Parce que un exploitant, quel qu'il soit, ne peut pas tout faire en même temps d'un point de vue industriel. C'est un peu ce qu'on lui reproche. En tout cas, chez EDF, on lui reproche souvent. Je prends un exemple. Après Fukushima, on a dit on va mettre en place plein de choses, on va les mettre en place avant telle date, je pense par exemple Udus. EDF n'a pas été en capacité de le faire. Il a demandé une extension du temps à l'ASN qui lui a accordé parce que justement il y avait des spécificités de site à prendre en compte qui ont été difficiles à prendre en compte. Et donc derrière, il y a la capacité industrielle à faire. Donc voilà. Donc si demain tu me dis, voilà, il faut faire une digue de 25 mètres de haut et en plus il faut pouvoir résister à des températures de 75 degrés en air, plus des températures de 90 degrés dans le fleuve. Bon, un bar, ça va être compliqué, mais admettons. Et ainsi de suite, pour dans 10 ans, je pense que les exploitants ne feront pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Japon. Au Japon, après Fukushima, ils ont viré l'autorité de sûreté, ils en ont mis une autre en place. Celle en place, elle a fait un peu de place et elle a dit, voilà, on va faire un step de sûreté. Avant, on était là, maintenant, on va être là-bas. Et il y a, je crois qu'il y a la moitié, enfin, il y a un certain nombre d'exploitants qui ont dit, c'est très bien, nous, on ne peut pas faire. Parce qu'on n'a pas les financements et ou alors on n'a pas le foncier sur site pour faire ce que vous demandez. Donc on va arrêter les réacteurs. C'est aussi simple que ça.
Ok, il y a pas mal de questions, ça défile un petit peu. Il y avait une question quand même, pour revenir un peu sur les SMR, tu avais mentionné le fait qu'il y en a qui sont envisagés pour de la production de chaleur. Est-ce que c'est là aussi qu'il pourrait y avoir des débouchés complémentaires avec ce qui existe aujourd'hui ou...
Oui, tout à fait. En fait, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des industriels qui étaient très, très intéressés pour avoir leur source propre de production énergétique. Ça valait pour l'électricité, ça valait aussi pour la chaleur. Il y a beaucoup de procédés industriels qui ont besoin de chaleur. Et donc, typiquement, il y a des SMR qui sont designés pour la chaleur. En France, on en a un qui est un peu le vent en poupe en ce moment, c'est Calogena, qui est destiné à faire un réacteur uniquement pour la production de chaleur. Donc ça existe. Il y avait un réacteur pour le chauffage urbain dans les années 60-70 qui s'appelait Thermos, qui est en fait assez proche de Calogena dans son design, dans son concept. Donc oui, ça existe. Aujourd'hui, dans les différents types de SMR qui sont proposés, souvent, ils proposent les deux. C'est-à-dire qu'il y a des SMR qui disent on pourra produire l'électricité ou on pourra aussi fournir de la chaleur. Le mix aussi, le compromis qu'il peut y avoir aussi entre les deux, c'est d'avoir un stockage thermique entre les deux. C'est-à-dire que vous avez votre production d'électricité, vous avez votre production de chaleur, et lorsque vous n'avez pas besoin de l'un ou de l'autre, en fait, vous la stockez sous forme de chaleur dans des selles fondues essentiellement. Et après, vous pouvez redistribuer cette chaleur-là, soit pour refaire de l'électricité, bon après c'est une question de rendement, soit directement pour les applications qui demandent de la chaleur. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont dans ce type-là. Typiquement, Exana est sur ce modèle-là de mémoire. Natrium aussi. Et puis un autre SMR, je sais pas.
Et t'as une idée des températures qu'ils peuvent atteindre?
Ça peut être très élevé. Ça peut être très élevé. Les procédés industriels, c'est plusieurs centaines de degrés.
Parce que nos réacteurs repressurisés, c'est 300 degrés, et du coup, il y a des SMR qui montent au-dessus?
Oui, il y a des designs de SMR qui sont conçus pour avoir des températures plus élevées. Typiquement, tout à l'heure, j'ai vu passer les Chinois pour la quatrième génération, et c'est vrai, eux, ils ont mis en service deux HTR, donc des petits SMR à haute température, et eux, ils sont directement à 600 degrés, je crois. Je vais me faire taper sur les doigts. Tout à l'heure, je disais justement que pour remplacer les centrales à charbon, il fallait monter en température. Ce type de réacteur, il est spécifiquement conçu pour atteindre des températures très élevées, à même de remplacer directement la chaudière d'une centrale à charbon. Et dans l'idée où le secondaire serait pas trop à modifier, on pourrait le réutiliser. Mais là, bon, c'est pas si simple que ça. Donc oui, il y a des SMR qui sont spécifiquement designés pour atteindre des températures très élevées.
Et l'intérêt pour la production électrique, enfin pour la production de chaleur, d'avoir des températures élevées, c'est que ça ouvre la voie à certains process qui ont besoin de températures élevées. Et pour la production électrique, c'est que ça améliore le rendement, quoi.
Ah bah après, ta turbine peut être différente, et effectivement, j'en connais un qui serait content. Est-ce que je vais le citer? Je sais pas, il se reconnaîtra, je pense. Et donc, effectivement, on pourrait améliorer le rendement des cycles liés à la turbine. Ouais, tout à fait. Et puis, en fait, c'est surtout, c'est que ça t'ouvre un domaine du possible plus important. Comme je disais tout à l'heure, bah, ta chaleur, une fois qu'elle est produite, bah, soit tu l'orientes vers une turbine qui est faite pour, soit tu l'orientes vers un stockage, soit tu l'orientes vers un réseau de chaleur. Aujourd'hui, avec l'électricité, bah, entre guillemets, on peut faire que l'électricité. Voilà. Certains disent qu'on peut faire de l'hydrogène. Bon, on est un peu revenu en arrière sur cette question.
De l'hydrogène, de faire de l'hydrogène directement?
Ouais, bah en fait, l'idée, c'est de coller. Pendant longtemps, on a posé la question de savoir si on pouvait coller un électrolyseur à côté d'un réacteur nucléaire et de pouvoir utiliser l'énergie, l'électricité en surplus, entre guillemets, dans cet électrolyseur. Donc, en gros, schématiquement, soit tu alimentes le réseau électrique, soit tu alimentes ton électrolyseur. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler. Les premiers retours d'expérience montrent que l'électrolyseur, il a quand même besoin d'un fonctionnement en régime relativement permanent et qu'il n'aime pas trop la variabilité ou l'intermittence, ça dépend. Et donc, du coup, ce modèle économique, il n'est pas actuellement hyper rentable, en tout cas avec les technologies aujourd'hui, ou en tout cas, il est fortement remis en question.
Et il n'y a pas aussi, pour de l'hydrogène, tu pourrais pas produire directement à partir de la chaleur de ton réacteur? À mon avis, tu as besoin d'un truc entre les deux, mais il y a des cycles thermiques, je pense.
Ouais, alors, en fait, avec un PWR, je crois pas, parce qu'on est à 300 degrés et pour moi, ça ne suffit pas. Par contre, effectivement, tu as quand même des réacteurs qui peuvent monter beaucoup plus haut, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Voilà, pour le coup, tu me poses une colle.
Et il y a quelqu'un qui demandait, parce que tu mentionnais la possibilité de stocker la chaleur, est-ce que la chaleur se stocke plus facilement que l'électricité?
J'ai envie de te répondre oui. J'ai l'impression que il y a plus de technologies disponibles dans le stockage de chaleur qui sont connues depuis beaucoup plus longtemps que pour l'électricité. Alors après, là, je suis plus dans le domaine de l'opinion que le fait. Dans l'électricité, bah, on parle souvent des batteries. Les batteries, bah, elles ont leur propre rendement, elles ont aussi leurs besoins en matières premières, qui peuvent être des repoussoirs. Donc ça, c'est assez problématique. En tout cas, ça peut poser des questions. L'autre grand stockage, c'est les steppes. D'accord? Mais les steppes, bah, ça consomme aussi pas mal de territoire et ça ne se fait pas comme du jour au lendemain. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a plutôt tendance à dire que l'électricité, ça ne se stocke pas, ça se stocke mal. C'est pas tout à fait faux. En chaleur, on a quand même pas mal d'éléments qui m'amènent à dire que ça me paraît plus simple. Et surtout, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de techno. Une technologie qui marche quand même pas mal, c'est dans le solaire, avec justement les tours à sel fondu. Vous savez, c'est les centrales solaires où en fait tu as une tour au milieu et tu as pas mal de panneaux en fait autour des miroirs qui renvoient les rayons du soleil vers cette tour. Et donc en fait autour tu as un matériau qui se réchauffe, souvent des sels fondus, à des températures très élevées. Et ça après on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Donc j'ai envie de te dire, ouais, j'ai l'impression, je vais dire ça comme ça, c'est pas un fait, j'ai rien pour t'étayer complètement, j'ai quand même l'impression que c'est plus simple. Où on a plus d'idées pour stocker la chaleur que l'électricité pure.
Ouais, pour l'hydrogène, en fait, vous regardez, bon, c'est des technos qu'on n'utilise pas, mais il y a des cycles, il y a des cycles qu'on appelle thermochimiques, et notamment, enfin, j'en ai mis un peu au hasard, mais du coup, il n'y a pas tout le temps obligation d'avoir de l'élec. Mais c'est vraiment anecdotique, c'est pas très grave. Et pour le stockage de chaleur, moi, il y a un truc que je me souviens, j'avais vu ça quand j'avais fait les vidéos sur le solaire thermique, donc ça remonte un petit peu. Mais ce qui est très marrant, c'est, en fait, il y a des pays qui font du stockage de chaleur, même intersaisonnier, et assez cheap, enfin, des pays, des sites, quoi. Et en général, ça coûte cher, etc. Mais par exemple, au Canada, ils avaient un projet pilote sur un quartier où, en fait, quand il faisait chaud l'été, ils envoyaient de l'eau chaude, tu vois, dans un soc de granit et ils accumulent de la chaleur dans le granit. Et quand il fait froid l'hiver, ils récupèrent la chaleur qu'ils ont accumulée. Alors, Les premières années, il faut un peu charger la roche, mais en fait, tu vois, c'est un stockage juste de mettre de la chaleur dans du caillou, quoi. Et au Danemark, ils ont pas mal de systèmes aussi où ils ont de la flotte et des graviers. Et tu vois, l'été, ils ajoutent de la chaleur dans le sol et l'hiver, ils viennent le récupérer. Et tu as des
Ah,
systèmes
c'est.
de chaleur comme ça. En plus, ça peut être stratifié et tout. Et des fois, c'est aussi bête que ça. Et c'est assez marrant, je trouve, parce qu'on n'en parle pas si souvent de ces trucs-là.
Ouais, après, c'est hyper dépendant de ta situation, quoi. Si t'as le bon emplacement, le bon matériau, entre guillemets, géologique, bon, on n'est pas sur des couches géologiques, si t'as la bonne combinaison, ouais, il y a moyen de faire des choses. Mais on revient, par exemple, ça nous renvoie vers la géothermie. La géothermie, c'est hyper intéressant, et sur le papier, il n'y a pas beaucoup comment dire, d'inconvénients, entre guillemets. Pour autant, bah, tes sites, tu peux pas l'inventer, quoi. Donc, t'es un peu dépendant de tes sites.
Ouais,
Bref.
et voilà, c'était pour la parenthèse. Écoute, on va se rapprocher de la fin. Est-ce qu'il y a des trucs que tu voulais aborder que t'as pas eu le temps?
Non, moi j'ai poussé mon message sur la communication. Je le repousserai à l'occasion. Donc, non, j'espère que j'ai pas raconté trop de bêtises. Du coup, je vais quand même relire le chat a posteriori pour voir tout ce que j'ai dit et tout ce quoi j'ai été rectifié. J'imagine que je vais recevoir des messages sur Twitter aussi.
Ah, ça
Bref,
permet
mes
de
déconnes.
s'améliorer, mais c'est
Ah
bien
mais c'est
d'oser communiquer. Et sur ce truc, du coup, de répéter toujours les mêmes choses, de faire des threads pour essayer d'aller là-dessus, et qu'il y a encore toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est pas dur, ça? C'est pas fatigant? Moi, ça me fatigue un peu, des fois.
Non, alors si c'est fatigant. Par exemple quand et puis alors après il y en a qui innovent, tu vois, par exemple quand on disait ah bah non mais là en fait les centrales nucléaires ça réchauffe la Méditerranée. Tu vois, celui-là on l'avait pas. Tu vois, par
Non,
exemple,
non.
on a pu innover. Non, c'est en fait c'est fatigant quand tu vois les mêmes questions dans les plus hautes sphères de décision.
D'accord.
Ça, c'est un peu fatigant. Quand tu dis dans le débat, alors le problème c'est que dans la télé, j'allume pas beaucoup, mais sur Twitter, on voit pas mal d'extraits. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des choses qui ressortent. Bah, tout à l'heure, je disais dans un article de presse, je dis voilà, les centrales elles s'arrêtent parce que le fleuve est trop chaud, il n'arrive pas à se refroidir. Bon, ça fait, je sais pas, 4 ans, 5 ans qu'on dit que c'est pas ça le problème, quoi. Tu vois? Et ça rentre pas. Donc, j'étais, comme je disais tout à l'heure, je suis ancien formateur. On disait souvent, la pédagogie ou l'andragogie, c'est la science de la répétition. Bah là, effectivement, il faut faire preuve de pas mal de patience pour répéter. Et après, il y a un autre aspect aussi, c'est que, bah, il y a du turnover. Il y a du turnover chez les politiques, il y a du turnover chez les journalistes. Et ben en fait, tu peux pas faire l'économie de dire non mais c'est bon les gars, je vous ai fait un trade il y a 4 ans, allez le lire quoi. Tu peux t'appuyer dessus, mais la moindre des choses, c'est bah, de leur donner le lien, par exemple aussi des fois. Leur dire bah, j'ai fait ça, lisez-le, je peux répondre à des questions. Typiquement, on a parlé des SMR là, pendant pas mal longtemps. Moi, j'ai fait 3 trades sur les SMR et j'ai fait un trade justement de questions-réponses. Il est toujours ouvert et si j'ai des questions dessus, bah, je serai content d'essayer d'y répondre.
Donc, ce travail de fond, ça te permet d'y renvoyer et donc de gagner du temps quand même.
Bah, Twitter, s'il vient pas à disparaître aujourd'hui, c'est une vraie base de données, quoi. Il y a énormément de trades qui ont été faits par des gens extrêmement talentueux où tu peux renvoyer assez facilement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de questions qui ont été traitées et il faut pas se le cacher. Enfin, je noircis un peu le tableau, mais ces questions un peu basiques là qui reviennent régulièrement, elles reviennent de moins en moins quand même. On en parlait un peu tout à l'heure. Le débat aujourd'hui, il est passé de quand je suis arrivé sur Twitter, c'est le nucléaire, c'est caca, c'est pas beau, c'est dangereux, à aujourd'hui, oui, mais quel pourcentage de modulation a quel impact sur la rentabilité à 80 ans de la tuyauterie du circuit primaire? Le débat, il n'est pas du tout le même, quoi, sur Twitter.
Puis il y a une partie de ces questions, c'est un peu usant d'y répondre, mais c'est vrai que c'est la répétition, ça fait partie du jeu. Mais faut aussi dire que venant de personnes qui connaissent pas, elles sont légitimes, quoi. Ce qui est plus dur, c'est
Voilà.
quand c'est des milieux qui devraient faire l'effort de s'informer,
Bah, c'est là
mais.
où je renvoie en fait où nos décisionnaires politiques que eux ils sachent pas à la limite. Moi je leur en... bon, c'est pas eux en fait qui sont au problème, c'est que derrière ils sont censés avoir une équipe ou du moins avoir accès à des gens qui peuvent leur expliquer. Et donc du coup quand il y a des énormités qui sortent, c'est un peu plus dur de leur pardonner parce que normalement ils sont censés avoir accès à cette information-là. Ou avoir accès à des gens qui, eux, ont cette information-là. Et le problème aussi, c'est que du coup, ça ralentit le débat, entre guillemets, parlementaire, où quand ils se battent sur des crêpes le chignon, sur des, sur, sur des entre guillemets, des détails, c'est un peu frustrant. Bon, comme tu dis, ça fait partie du jeu. Je pense quand même que depuis quelques années, il y a pas mal de gens sur les différentes filières énergétiques qui se sont mis, enfin, qui ont pris leur clavier et qui ont quand même fait des trades où il y a pas mal d'informations. Peut-être que c'est compliqué aujourd'hui justement de retrouver les trades en question, mais ces gens-là, souvent, ils sont accessibles. Si on leur envoie un DM, ben, ils répondent, en fait, souvent. Et ils peuvent, eux, renvoyer à leur trade, parce que même s'il y a des trades qu'on a fait il y a 4 ans, souvent, en fait, on s'en souvient un peu. On se dit, ah, j'ai écrit un truc il y a quelques années dessus, etc. Donc, faut pas hésiter, ça fait partie du jeu comment dire, d'aller chercher ces gens-là. Et après, il y a un autre aspect aussi, c'est qu'on voit de plus en plus de gens sur les plateaux télé ou au contact des journalistes qui ont débattu sur Twitter. D'accord? Donc ce monde-là, en fait, il s'alimente, et je pense qu'il faut continuer à l'alimenter. Il faut surtout pas faire cette scission. Bon, Twitter est passé X, on a tous eu peur de l'orientation que prenait ce réseau social. On peut pas dire que ça a été une franche réussite sur l'ensemble des points. Pour autant, il n'a pas disparu. Cette base de données, elle existe toujours. Les trades, ils existent toujours. Il y a quand même des heures et des heures et des heures de boulot derrière pour rendre quelque chose compréhensible et intelligible par entre guillemets, tout le monde. Donc c'est une vraie force. Et je pense encore que même s'il y a des choses qui sont perfectibles, on a quand même vachement amélioré le débat. Le débat aujourd'hui, il se situe à des niveaux économiques, techniques, qui ne sont pas du tout ceux d'il y a quelques années. Et du coup, ça pousse un peu les acteurs dans leur retranchement, et c'est pas plus mal. D'accord? Aujourd'hui, on cherche justement à avoir l'adhésion de la population pour tous les projets, quels qu'ils soient. Je pense que ça passe aussi par là.
Ok, alors pour le chat, du coup, vous pouvez me dire, n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord où on a la petite communauté, notamment associée au live qui discute. Normalement, le lien fonctionne, sinon dites-moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce soir, si vous avez des idées d'autres personnes à interviewer. Voilà, déjà, est-ce que ce format vous paraît bien ou est-ce qu'on reprend ce qu'on faisait avant? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des idées de raid? Et voilà. Et après, je pense que ça nous laisse quelques minutes. Est-ce qu'il y avait quelques trucs? Non, je pense qu'on va.
Bah écoute, moi je vais te remercier aussi. Du coup, je vais en profiter. Je te remercie pour ton invitation. J'ai apprécié, j'étais assez flatté que tu me proposes. Ça m'a permis de discuter avec toi, même si on peut discuter par d'autres.
C'est toi qui t'es proposé dans le chat d'un live. Hein.
Non, c'est pas vrai. Je t'ai dit, t'as demandé, oui, je sais pas quoi faire de mon live. Est-ce que vous avez pas des idées? J'ai dit, bah, t'as qu'à inviter des gens. Et c'est toi qui m'as dit, tu veux pas venir?
Ouais, c'était. Voilà, c'était parfait. Non, mais merci d'être venu parce que c'est quand même sur ton temps libre, c'est quand même un gros boulot. Bonjour.
On est toujours en live, là, oui.
Ouais, d'accord.
Ok.
On a bientôt
Ok.
fini. Ouais, on était 120.
Oui, c'est ça.
Effectivement.
Bon, ben voilà.
Et voilà. Donc merci beaucoup à toi parce que ouais, c'est du boulot, c'est sur ton temps libre, alors que tu avais tes enfants à charge.
Alors du coup, j'ai pas de preuves, mais effectivement, j'étais en père célibataire pendant 3 jours. Mais bon, bref. Donc non, non, oui, bah écoute, c'était avec plaisir. Je t'ai dit tout à l'heure que moi, communiquer sur ces techniques, sur ces sujets-là, je pense qu'il faut qu'on le fasse plus. Donc tu m'as tendu une perche et j'avais pas envie de te dire non. S'il y en a d'autres qui peuvent le faire sur le domaine énergétique, si on reste dans Twitter, t'as plein de gens à inviter. Moi, je vais en balancer un, parce que comme ça, il prendra pas, il fera ce qu'il voudra.
Sous le train, bim.
Voilà, directement. Tu peux te demander ça si t'as des invités, tu demandes à ce qu'ils citent quelqu'un d'autre derrière. Ça peut être aussi une tradie. On faisait ça, je crois, les vendredis soirs au début de Twitter, suivez tel compte, tel chose comme ça. Bref, je pense que par exemple, Maxence Cordiez, il a une vision du domaine énergétique, si tu veux rester dans ce domaine, qui est beaucoup plus large que la mienne. Il a aussi une connaissance du monde géopolitique qui est beaucoup plus large que la mienne. Et du coup, vous parlerez pas que de nucléaire, et ça sera peut-être aussi intéressant. Je te donne ça.
Ok, ouais,
Je vous remercie, je
c'est
vous remercierai.
pour l'instant, j'ose pas trop. C'est quand même du temps. On est une petite communauté. Je veux pas trop embêter les collègues. Mais vu que te... Ouais, non, c'est une bonne idée. Je verrai. Je suis un peu timide.
Non, non, mais pas
Mais
de
ça va,
souci.
le chat a été sympa en plus.
Je suis pas trop fait insulter, mais ça servira peut-être plus tard, c'est pas grave, j'ai pas
Ça
vu.
marche. Faut alterner. Ok, alors maintenant, il faut que je leur trouve quand même quelqu'un à aller voir. Est-ce que je vous envoie chez Samuel Etienne qui joue à Valorant, comme ça vous lui dites que nous on parle d'énergie et de climat tous les mardis soirs, et ça fera peut-être des vues. Est-ce que je vous envoie faire coucou à Marina? Et j'ai pas eu trop de propositions. Parce qu'à la fin de Twitch, faut envoyer. Ouais, tu connais Twitch, toi. Est-ce que tu as
Un
une
petit
idée?
peu.
Tu veux une
Alors moi en
suggestion?
ce moment je joue à Helldivers 2, donc
D'accord.
mais je crois j'ai pas de chaîne française à recommander, donc ça va pas beaucoup t'aider.
Ok. Bon bah ça va être Marina. Ça va être PUBG. Fidrong, le stratège Pokémon. Ok, bon, pas de Samuel Etienne.
Ah, pourtant, il se donne du mal, hein.
Bon, ça sera Marina. Allez, c'est ma chouchou Marina. Elle a monté mes vidéos. Une partie. J'envoie le raid. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là. Merci encore beaucoup à Guillaume. Et on se retrouve mardi prochain. Guillaume, un petit mot de la fin.
À plus. Eh ben, merci à vous de vous intéresser à ces sujets. C'est hyper important. Donc, merci pour votre présence.
Voilà, allez, c'est parti. Bonne soirée et bonne nuit.
Salut!